Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Salut à toi, c'est Régis. Petit instant promo avant de lancer ce podcast. Si tu veux me voir moi sur scène, je joue plusieurs 30-30 afin de créer mon spectacle. Et j'ai 3 dates qui sont prévues. J'ai une date le 11 avril à Mons avec Rocco Matti, un autre humoriste de la région. Ça va faire plaisir de jouer un peu à la maison. Ensuite, je joue le 2 mai au Réservoir avec Jérémy Yippé, que j'ai rencontré au Québec et qui était dans un épisode précédent, que je t'invite à aller écouter. Moi, je trouve que l'épisode est vraiment chouette. Ensuite, je joue le 18 mai à Charleroi avec Nathan Drapeau, qui était l'invité du tout premier épisode avec qui j'ai commencé le stand-up. Si tu veux me voir sur un plus long format, c'est le bon moment pour venir me voir. Toutes les informations sont sur mon Instagram, donc Régis Canon Humoriste, ou sur Facebook si tu n'as pas Instagram. Tu peux aussi bien sûr venir me voir tous les mardis au Réservoir. J'anime la soirée test du What the Fun, donc ma soirée préférée à Bruxelles où on découvre de nouvelles blagues. C'est trop bien, l'ambiance est trop chouette et je m'éclate vraiment à animer cette soirée. J'adore avoir des interactions avec le public, c'est super cool. Et si tu écoutes l'épisode le jour de sa sortie, bah, ce soir il y a Moana qui joue son spectacle au Petit Kings, donc n'hésite pas à prendre tes places. Si tu veux aller voir Marine, faut attendre par contre le 17 avril. Voilà, tu peux réserver directement tout ça aujourd'hui, comme ça t'as ton mois d'avril qui est prêt, et tu passes un bon mois d'avril, c'est cool. Bonne écoute, et à très bientôt.
D'accord.
Ça vous marche.
Ça vous marche.
Ça vous marche.
Ça nous marche.
Ça me marche.
Nous marche. Nous marchons. Ah ben nous.
Pourquoi t'es nerveux ?
Je suis toujours nerveux.
Mais tu nous as vus ou quoi ?
Mon mode de départ, c'est nerveux.
Ah ok.
Si je suis soit très nerveux.
D'accord.
Là, je suis juste nerveux comme d'hab.
Ok. Ah bah ça.
C'est mon mode.
Ok, très bien.
Super.
Je veux juste que ça se passe.
T'es super. Tu vas être
super.
On a confiance en toi.
Mais ça vous fait au moins 2 personnes dans la pièce.
C'est important.
Ok, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois 2 humoristes qui me font beaucoup rire. Je reçois 2 humoristes, 2 amis, 2 fondatrices de l'Atout Comedy Club et du spectacle Fin de Soirée, 2 improvisatrices, 2 fans de jeux de mots. Je reçois Marine Sergent et Moana. Comment allez-vous ?
Ça va.
Ça va très bien.
C'est trop bien comme présentation déjà.
Oui.
Je ne vous ai pas prévenu, et là je vois votre tête que vous vous dites « Ouh, qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Mais pour commencer l'épisode, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter l'un l'autre. Est-ce que vous pouvez me dire quel humoriste est l'autre ? Comment elle est, comment elle est sur une scène ? Comment elle est avant une scène ? Comment elle est après la scène ? Son genre d'humour un peu ? Présentez-moi l'autre humoriste.
Je ne connais pas cette personne.
Qui êtes-vous et que faites-vous sur mon canapé ? Tu veux que je commence ?
Vas-y, je t'en prie.
À côté de moi, il y a Marine Sergent qui adore qu'on la complimente, donc ça va être un super moment. Je sais pas si ça se voit. Bah non, ça se voit pas, c'est du podcast, je suis débile. Elle a ses yeux qui augmentent de volume et elle a envie de se cacher dans son bonnet, donc ça va être bien. Marine Sergent, est une humoriste que j'aime beaucoup. C'est une humoriste qui a, je trouve, beaucoup de charisme sur scène et dont le sujet principal est la gentillesse, on va dire, mais pas que. Genre, comment faire quand on nous a appris qu'il fallait être gentil et une fille polie et bien comme il faut toute sa vie et comment ça se passe quand on sort de petit à petit de ce carcan et comment s'autoriser à s'énerver quand c'est possible et à sortir de ce moule-là. Voilà, elle aime beaucoup les jeux de mots, elle chante très bien, elle est multicasquette et elle me fait beaucoup rire.
Et comment elle est avant une scène, pendant une scène, après une scène, c'est du genre quelqu'un stressé, quelqu'un
oui.
qui, dans son coin.
Alors ça dépend. En fait, je crois qu'elle a deux modes. Elle a le mode panique et donc dans le mode panique, elle va être là genre ça va pas et elle va se toucher les cheveux comme ça, elle va dire oh ça va pas.
Quoi
si tu vas
me toucher les cheveux,
tu vas faire un truc comme ça, tu vas t'ébouriffer les cheveux, tu vas dire ah non ça va pas.
C'est juste quand
bien.
Je me coiffe en fait moi.
Excuse-moi de m'interrompre pas en fait. et après elle va être là genre ah je sais pas, je connais pas mon texte, ah, et puis elle va nous interrompre pour dire qu'elle est nerveuse et tout. Ça c'est le mode panique. Et sinon il y a le mode extrêmement smooth et extrêmement en confiance. Elle va dire ah non mais moi je suis certaine que ça va bien se passer. Et nous on est toutes là genre mais quoi, comment ça? Elle dit non mais regardez-moi, là, ça va bien se passer. Et là, ce que ttu veux dire, c'est « Et est-ce que j'ai pas raison ?»
Et est-ce que j'ai pas raison ?
À chaque fois que je dis que ça va bien se passer, ça va
se passe
bien se passer. Et il y a aussi un moment où elle cisale avec son casque et où elle écoute de la musique, elle répète son texte et elle a l'air un peu zinzin. Et voilà, c'est okay. ça.
Très bonne description.
Waouh. Alors, envie comment de crever, mais c'est génial.
Comment est Moana ?
Ah, Moana, comment la décrire ? Elle est tellement de choses à la fois.
Oh,
wow. Moana est pour moi une des prochaines humoristes, grandes humoristes absurdes de notre dizaine d'années. C'est quelqu'un qui a, on le dit beaucoup, que c'est une planche à émoji. Elle a 1000 têtes à son actif, même plus. Elle est, en étant très bonne improvisatrice aussi, elle sait très bien, elle sait de plus en plus réagir avec le public. Et en fait, c'est trop marrant parce que tu réagis complètement à ta manière et c'est génial. Et la manière de Moana, c'est elle a toujours un grand sourire et elle part dans des délires et t'es là, je suis avec toi et j'ai envie d'être avec toi parce que c'est génial. Et elle joue extrêmement bien aussi la comédie, le drôle. Elle a un clown qui est très fort, qui moi me fait hurler de rire évidemment. Une très belle écriture aussi, beaucoup à choisir le bon mot, le bon texte. Il y a vraiment de la dentelle dans le texte et tout ça, ce qui peut parfois, attention, te desservi.
Tout à fait.
Parce que vous êtes extrêmement collé à votre texte, parce que le texte est très bon. Donc voilà. Mais du coup, ça fait un espèce de mélange stand-up, clown, absurde, théâtre, parfaitement savoureux.
Ok. Oh, et wow. Comment elle est sur un plateau ?
Sur un plateau ? Sur un plateau. Quand on dit on, c'est souvent parce qu'on parle de Lola, parce que Lola, voilà, qui n'est pas
elle
là,
est
pas, elle un peu
elle
la troisième, j'allais dire troisième roue du carrosse, mais juste pas là.
Qui m'a dit de vous annoncer qu'elle avait énormément le seum de
bien sûr,
dans l'épisode.
Ça ne m'étonne
mais
pas.
Mais elle a eu son épisode à elle avec Aurélien Garcia, que je vous invite à aller écouter.
Avant fin de soirée ou dans d'autres plateaux où on connaît peut-être pas tous les humoristes, moi je suis un peu la caution sociabilité. Et du coup, Moana, je vais parler de Moana et un peu Lola aussi, viennent un peu vers moi en disant, oh, on va parler à des gens. tu peux aller parler à des gens et tout ça. Parce qu'il y a un peu ce stress et tu aimes bien t'isoler aussi avant les scènes. Tu fais tout le temps des italiennes pour bien te remémorer ton texte. Et pareil, on a besoin toutes les deux de s'isoler un peu aussi. Et pareil, t'as l'air un peu zinzin aussi parce que je me rappelle notamment d'une fois où tu répétais ton texte et tu le répétais en me regardant droit dans les yeux comme ça de manière extrêmement intense. Et c'était très drôle et en même temps très flippant. Et donc voilà, t'es un peu comme ça avant sur scène quand on a rien à foutre. C'est encore au-dessus parce que parce que tu pars en sucette et c'est génial et on voit que tu prends du plaisir et que t'aimes ça et après on se fait toujours des câlins et tout en mode ah c'était super et ça c'est trop bien,
plein de compliments,
c'était super, ça t'a plu? Oui, ça m'a plu. Marine est très people pleaser mais elle a bien fait ça.
Parfait, je suis exactement pareil sauf sans le côté sociable avec les gens sur le plateau.
Ah, bah ouais.
Si personne me parle, je n'ai jamais parlé à personne.
Et ben on ira toujours te parler, Régis.
Oui, c'est vrai,
j'apprécierais énormément.
Tu sais que j'aime bien quand je suis dans des plateaux avec toi parce que je me dis ah ok, on va voir parler avec Régis et ça va être bien, ça va être chouette.
Ouais.
Il est gêné,
il sourit.
Il est gêné.
Regardez-moi ça.
Trop content.
Ce petit chou.
Voilà, j'ai tout ce que je voulais. C'est bon. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast avec moi. Est-ce que vous deux, vous êtes consommatrices de podcasts ?
Oh oui. J'en ai. En fait, j'ai quelques podcasts que j'écoute. C'est un peu ma routine de la semaine. Je commence le lundi avec évidemment le Floodcast. Obligatoire. Et puis j'ai un autre podcast que j'écoute qui s'appelle Just Break Up. C'est un podcast américain de deux personnes queer qui donnent des relationship advice. Et donc, ils sont là genre, non, mais quel est ton style d'attachement? Ah, d'accord, c'est pour ça. Tu sais, il faut se pardonner soi-même et tout, c'est trop bien.
Ça te ressemble pas du tout, ce genre de...
De podcast où je donne des conseils. Je donne toujours des conseils de relations. Okay. Alors que moi-même...
Ils sont souvent très bons.
Oui, c'est vrai. C'est grâce à ce podcast. Hein. Bref. Et ensuite, le mardi, j'écoute 4 quarts d'heure. Un podcast avec Kalindi Rompfel, Alix Martineau, Louise Petrouchka et Camille Lorente, qui est stand-upeuse, Camille Lorente. Et c'est un podcast très chouette parce que c'est 4 meufs très drôles qui sont très copines et qui racontent un peu ce qui leur arrive et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis après, j'écoute Conan O'Brien Needs a Friend, qui est aussi un podcast où il y a beaucoup d'humoristes américains. Et Conan O'Brien est lui-même très, très drôle.
C'est vrai.
Transfert aussi, quand je veux entendre des histoires de « j'étais dans la rue et j'ai rencontré cet homme et il était bizarre ». À chaque fois, c'est sur des hommes bizarres. Okay. Voilà.
J'ai été très podcast, je le suis moins là maintenant. Vraiment, j'écoute le Floodcast et je reponce des épisodes que j'ai déjà entendus. Parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où les produits culturels que je consomme doivent être un peu doudou. Et donc, du coup, j'écoute ou je regarde ou je lis que des trucs que je sais qui vont être un peu doudou. Et le Floodcast, c'est un peu ça. Sur tous les épisodes avec Pyjama. Et j'ai découvert le Floodcast avec Moana. Il y a un an et demi, je connaissais pas le Floodcast. Sinon, j'ai une grosse période de transfert et les pieds sur terre aussi, où ça raconte plein d'histoires pas possibles. Mais je sais pas, ça m'est passé.
Est-ce que je peux faire une toute petite digression sur transfert? Mais c'est ce que j'essayais d'expliquer. Transfert, 90% des épisodes, c'est une meuf qui dit « Oui, j'étais tranquille dans ma vie et là, j'ai rencontré Fabrice. » Et tu sais, dans 90% des cas, que Fabrice est fou et que Fabrice va lui faire vivre un truc horrible. Dès qu'elle
va
dit,
finir
et
par...
que ça va finir genre, il était trafiquant de drogue et il a essayé de manger mes organes. Et à chaque épisode, c'est ça. À chaque épisode, c'est ça. Bref.
Exactement. Et je sais pas, j'aime bien. Donc je suis plus, et par exemple je vais consommer des séries, genre là il y a un truc sur la philosophie du rire ou truc comme ça, mais c'est chiant. Et j'étais un peu là genre wow, vraiment c'est pas très intéressant. Donc parfois j'essaye de m'attaquer à des séries de podcasts comme la dernière série sur l'inceste notamment, je ne me rappelle plus.
Peut-être une nuit.
Ou peut-être une nuit, merci, qui est incroyable mais très hardcore. Attention, c'est hardcore. Trigger warning, c'est très hardcore, mais c'est super. Et quand j'entends ah faut que trop que t'écoutes cette série là, je les écoute. Il y a Députée aussi qui est hyper intéressante sur la vie des députés en France. Enfin c'est pas la vie, c'est ça suit des députés en France. Et donc c'est beaucoup des séries comme ça. J'ai pas beaucoup de trucs genre réguliers. Les filles ont essayé de m'initier à 4 quarts d'heure, mais j'ai pas réécouté depuis qu'on a écouté ensemble. Mais voilà. Et puis j'ai perdu mon casque audio Bluetooth, ce qui fait que maintenant voilà, ma vie est moins remplie de sons.
Mais donc pas trop podcast d'humoriste qui parle d'humour spécialement.
J'en ai soupé, j'en peux plus en fait.
Okay.
Non, pardon.
C'est vraiment le meilleur truc à dire dans un podcast qui n'est essentiellement que ça. Hein.
Non, mais parce que là
l'entièreté, c'est
sais,
que ça.
Je suis désolée.
Tu vas passer un moment
non,
horrible.
Attends, c'est pas... Mais non, parce que là
une
c'est
heure
moi.
Et demie de...
Mais non,
je déteste ce moment.
Je
déteste.
Je suis. Alors pas.
Attends,
parce qu'elle est
arrivé à l'heure pour cette merde. Excusez-moi.
Attends, je m'en suis pas rendu compte en le disant. Mais il faut savoir que je suis très fatiguée, d'une. Et de deux, là, c'est moi qui parle, donc c'est pas pareil. Je crois
que t'es tellement une humoriste. Ah non, mais je suis
désolée.
Mais alors, moi, parler
non,
de moi.
Mais oui. Non, mais attends, moi, enfin, après, moi, je vais pas réécouter ce podcast. Non, si c'est.
Marine.
Non, non, c'est pas vrai. En plus, j'ai écouté plein d'humeurs humoristiques, en plus, pour de vrai. J'en ai écouté plein, et c'est toujours trop bien.
Un excellent moment, moi.
Mais voilà, mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de podcasts où j'ai écouté des humoristes parler. Et moi, je passe aussi par phase. Il y a des moments où ça passe par des phases de dégoût parce que j'en ai trop mangé, tu vois. Okay. Et voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la qualité de ton travail, Régis. Je t'adore.
Il n'y a pas de problème. Mais ça me fait toujours rire quand les gens disent « Ah, moi, les humoristes, je peux pas. » Dans un podcast qui fait que la promotion de ça. C'est vraiment
Après, on en reparlera, mais j'ai bossé beaucoup avec des humoristes. Donc, j'ai beaucoup écouté des humoristes me parler de plein de trucs et ça va, quoi.
Mais moi aussi j'ai écouté tous tes épisodes, j'ai commencé à écouter tous tes épisodes quand j'ai commencé à faire du stand-up pour un peu connaître la vie des gens avec qui j'allais travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes belges, t'as commencé par beaucoup d'humoristes belges. Et aussi j'ai commencé en écoutant, les premiers épisodes que j'ai écoutés c'était aussi les deux gars du Floodcast parce que je les aime beaucoup.
Ok, oui. Voilà. Comme j'ai eu Florent Bernard et Adrien Méniel,
ouais.
Deux épisodes vraiment cool.
Comment ils sont en vrai?
C'est trop bien. C'est vraiment trop chouette.
Je les aime trop.
Les épisodes des gens les plus gentils que j'ai eu dans le podcast.
Ils sont incroyables.
Je suis content parce que tous ceux que j'admirais, que j'étais trop fan,
je suis pas déçu.
Genre, pour le moment, rencontrer ces idoles.
Attends, avant de rencontrer. Non, j'ai. Alors,
en tout cas, rencontrer ces idoles via un podcast, pas mal.
Ouais, trop bien.
Après, ils se mettent sur leur bonjour puisqu'ils sont tous interviewés. Donc, je veux pas dire. C'est facile de savoir que tu dois être sympathique pendant le temps de l'interview. Oui. Ça serait très bizarre que les gens soient très désagréables avec moi, sachant que je vais leur parler pendant 2 heures et faire leur promotion de leur travail après.
Mmh. Et puis je crois que quand les gens parlent d'eux-mêmes, ils sont plus gentils.
Aussi. Oui. Mais voilà, ils sont très chouettes, ils ne m'ont pas déçu du tout, ils sont super sympas, ils ont même reparlé du podcast, ils ont repartagé.
Oui,
ont...
j'ai entendu dans le podcast. Ouais, on est dans un loop,
oui
en fait.
Oui,
on est à une personne
de Florent Bernard et Adrien Méniel. Oh my god.
Une personne assez éloignée, hein, je vous
avoue. Mais moi, non, mais c'est pareil. Mais c'était moi, leur frère, ok?
Par contre, moi, j'ai un peu peur. Pardon, on diverge tellement. Mais, oui. Par contre, moi, j'ai trop peur que si un jour, imaginons, on fait le Floodcast un jour. C'est possible, tu vois. Peut-être.
Manifesting! J'ai dit ça et Adrien Méniel voudra jamais me rencontrer.
Mais si, pourquoi pas? Écoute, moi, j'ai trop peur qu'on essaye trop de dire, vous avez vu, on a compris tous vos délires. On connaît trop vos délires. Laisse-moi tranquille. Tu peux faire l'animal? Tu peux faire le jaguar, là, qui crie? Non, c'est le jaguar.
Le lynx, putain.
Mais c'est pas du tout ça.
Ça envoie du sax, les gars, ça envoie du sax. Tout est 3 minutes.
Et en plus, imagine, t'es trop en retard sur le truc et tu dis, alors c'est Black Mirror ou quoi? Alors qu'il supporte plus qu'on dit ça. Mais oui, il faut être up to date.
Bon, bref.
Mais avant de revenir sur vos parcours, j'ai envie de parler de vos actualités. Vous travaillez donc tous les deux sur votre premier spectacle. Mona, t'as fait un 30-30 avec Dena au Petit Kings le 12 février dernier. Comment ça s'est passé?
C'était génial. C'était trop bien. J'avais l'impression que c'était mon anniversaire aussi parce que je connaissais pas 5 personnes dans la salle. Le reste, je les connaissais. Mais c'était aussi, j'ai souvent des crises de légitimité où je me dis, mais... pourquoi je fais ça?
Super, t'as compris?
Ouais, ok, merci. Mais ça m'arrive souvent. Mais il y a aussi quelques petits moments où je me dis, ah, en fait, je suis peut-être faite pour ça, ou je peux être faite pour ça, ou c'est ce que j'ai envie de faire et je pourrais peut-être à un moment faire ça de ma vie. Et le 12 février, c'était un de ces moments-là.
Cool.
Où j'étais là, genre, ah, en fait, ouais, en fait, c'est trop bien. Parce que je me suis sentie parfaitement à ma place tout le long. Et aussi, surtout, je me suis dit, ok, c'est une première étape de travail et je commence à voir à quoi pourrait ressembler le spectacle. Et ça m'a un peu ouvert la voie pour la suite, quoi. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai un horizon de travail et tout ce que je vais faire par la suite va être dans le but de construire ce premier spectacle. Et c'est trop excitant.
À fond.
C'est trop excitant.
Et justement, comment tu envisages la suite? C'est quoi les prochaines étapes que tu vas mettre en place? Le titre du spectacle, t'y as pensé, la fiche?
Oui. Ben en fait, alors... là, je vais exclure humeur humoristique.
Oh yeah.
Je sais pas pourquoi je dis ça, les gens s'en foutent.
Waouh, le scoop.
Les gens sont là. Quelle est l'actualité de Moana? Pas du tout. Mais en fait, à partir d'avril, je vais faire une pause carrière dans mon travail de jour. Et je vais prendre 6 mois pour juste me consacrer à l'humour. Et le but de ces 6 mois va être de construire le spectacle. Et donc, pour l'instant... au vu de ce que je suis en train de faire, j'ai envie de construire... le thème, ça va quand même être vachement l'adolescence et mon adolescence. Et l'adolescent, quand on était adolescent, genre l'adulte qu'on aurait voulu être et l'adulte qu'on est vraiment, en fait.
Okay. Nice.
Avec un peu les codes de l'adolescence de mon âge, donc les codes années 2000, quoi. Donc, la pop culture de ces années-là, Skyblog. Et un peu quelle adolescente j'étais et quel adulte je rêvais d'être et qui je suis devenue, finalement. Avec un peu de féminisme, beaucoup de féminisme quand même derrière. Des choses queer aussi.
Jusque-là, rien ne me surprend.
voilà.
Passage mascu à un moment, là ça te surprend.
Ah là, tout de suite. Là,
oui, à un moment, je fais mon coming out incel. Pas du tout. Enfin, quoique, j'ai quand même été très problématique dans mon adolescence. Mais pour ça, il faut venir au spectacle pour le voir.
Ouh, ça, c'est du teasing, j'aime bien.
Que l'idée de ces 6 prochains mois, c'est de travailler activement sur le spectacle. Et donc, la prochaine date, c'est le 1er avril, premier jour de ma pause carrière, mon autre 30-30 au Petit Kings où je continuerai à travailler sur le spectacle.
Et tu fais ça avec qui cette fois-ci?
Avec Tayla.
Tayla, nice.
Ouais.
Que j'aime beaucoup aussi, que j'essaie d'avoir dans le podcast, mais il faut que je trouve une association.
Ok.
Marine, toi, on peut te retrouver un lundi par mois au Petit Kings, également avec Une Heure avec Marine Sergent et Les Gentilles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle? Comment ça se passe pour le moment?
Oui, ça a commencé en septembre, une fois par mois. Et en fait, donc comme Moana l'a dit, moi j'ai un axe qui parle de gentillesse. Alors tout le spectacle parle pas de gentillesse, ce serait quand même très 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 chiant. Quoique ce serait la définition même de tirer un sujet, quoi. Mais j'aime bien l'idée d'être un peu calqué de l'humoriste gentil. C'est pas du tout ça parce que je suis personne me connaît. Mais j'aime bien l'idée de vraiment tirer ce fil-là, en tout cas dans mes invitations, dans ce genre de choses et tout ça. Sachant en plus que la prochaine, j'invite Chloé Fromentin qui fait de l'humour noir. Donc ça va être rigolo. Que j'ai vu sur 10 minutes et que j'ai trouvé super et que j'aime bien. Et donc pour le moment... donc à chaque fois, je fais 30 minutes avec des ordres différents, je rajoute quelques petits sketchs. Enfin, j'ai écrit beaucoup de nouveaux trucs, mais que j'ai pas encore osé tester. Et donc là, les prochains, en fait, avril, mai, juin, je me suis dit, Marine, tu te forces, t'as 10 minutes de nouvelles blagues à tous tes 30-30. Oh, voilà, je me suis donné ça comme objectif. On va peut-être réduire à 5, mais, mais l'idée, c'est au moins d'aller dans cette direction-là parce que j'ai du matériel, mais là, j'ai passé une semaine au fin fond du trou du cul de la Bretagne sous la tempête et c'était la pire idée de ma vie, mais parce que j'étais toute seule sous la pluie. Bref, mais j'ai pu réfléchir un peu au spectacle et là je sens que il peut prendre plein de directions et qu'en fait il va falloir que je choisisse et que je sais pas et plein de directions qui peuvent sembler un peu banales genre ouais mais c'est quasiment la même chose, bah non, c'est pas exactement la même chose. Donc j'ai pas encore d'idée très claire, donc je sais pas quoi en dire, mais voilà. Et donc aussi l'idée, c'est d'inviter des gens que j'aime bien et ça a été le cas jusqu'ici, ça a été que des humoristes super chouettes, mais j'aimerais bien avoir une heure en septembre. Voilà, ça c'est mon objectif.
Objectif, une heure en septembre.
C'est ça.
Ok.
Voilà.
Sinon, on peut vous retrouver toutes les trois avec Lola Destienne, qui, je rappelle, a énormément le seum de ne pas être là.
Paix à son âme. Paix. Non, pas du tout. Pourquoi ?
On pense à toi, petit ange.
Petit ange. Petit enfant turbulent.
Tu es parti trop tôt.
Mais viens à la demain. Répète demain. Mais viens à la répète demain.
Elle doit bien s'amuser là-haut avec des proches.
Avec des proches écolus. Hey, c'est une dédicace au podcast.
Ah, ça envoie du sac.
On force trop.
Donc vous avez toutes les trois le spectacle qui s'appelle Fin de soirée, que j'ai eu l'occasion de voir au Kings of Comedy Club. Les prochaines, c'est le 27 mars et le 24 avril. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce spectacle? Et est-ce que ce spectacle est différent de ce que vous proposez sur scène vous-même?
Absolument. Fin de soirée, en fait, ça a commencé parce que Lola, Marine et moi, on se connaissait un petit peu en dehors du stand-up. On avait une amie en commun qui s'appelle Léa Charlet. Big up. Mais on n'était pas forcément amis. Et le fait de faire du stand-up ensemble, ça a fait qu'on est devenus très proches. Et toutes les trois, on s'est rendu compte que on aimait beaucoup faire des blagues ensemble. Et quand on commence le stand-up, les fanas d'humour qui nous écoutent le sauront.
Que Marine déteste.
Que Marine
allez tous vous faire foutre.
Chie dessus.
On en parlera plus tard. Couper, mais non, enfin. Les humoristes sont super.
Quand on commence le stand-up, on n'a pas une heure directement. Souvent, les gens se mettent avec d'autres copains et font de ce qu'on appelle des 3 fois 20 minutes. Et donc, nous, on a commencé à faire 3 fois 20 minutes. Chacune 20 minutes. Ensemble, ça faisait une heure. On a fait une première fois à Paris, ensemble. Et puis après.
Et ouais.
Et après, on a fait notre première 3 fois 20 au Kings. Et c'était génial. Et quand on l'a fait, on s'est dit, mais en fait, il y a peut-être moyen de faire plus que juste 3 fois 20 minutes et de faire quelque chose qu'on voit pas trop. C'est un vrai trio d'humour avec des sketchs qui interagissent les uns avec les autres. Et donc, on a fait la première version de fin de soirée, qui est une espèce de comédie musicale, mais pas que, avec, il y a quand même des gros blocs de chacune de nous. Et au milieu, il y a des petites surprises chantées de nous trois, parce qu'on aime toutes les deux la musique. Toutes les trois, la musique. Pardon. Lola.
Oh, wow.
Petit ange, parti trop tôt.
Wow, Lola. Mais en fait, la forme va un peu changer parce que pour le moment, le matériel qu'on fait en fin de soirée, vous pouvez un peu le retrouver sur les plateaux, sur nos spectacles et tout ça, parce que ça nous identifie beaucoup. Mais là, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est de réécrire du matériel spécifique fin de soirée, en fait. Donc, je pense que c'est toute la question de savoir notre personnage sur scène. Est-ce que c'est le même quand on est toute seule ou quand on est toutes les trois? Sensiblement, mais on va accentuer certains aspects un peu plus de chacune. On va voir un peu comment est-ce qu'on est. En fait, les deux autres vont refléter une partie de nous particulière. Donc, en fait, on va dire comment on est toutes les trois dans une situation, comment les deux réagissent quand elles sont toutes les deux, comment une réagit vis-à-vis des deux, etc., etc. Et donc, en fait, ça crée, nous, on a pensé à plein de situations qu'on va réécrire un petit peu, parce qu'au début, c'était un peu un 3x20 amélioré. Et là, l'idée, c'est vraiment qu'on réécrive plein de trucs nouveaux. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais on travaille avec quelqu'un qui est incroyable, qui s'appelle Alexandra Henry, qu'on aime d'amour. Big up! Qui va nous aider, qui nous aide un peu déjà à la mise en scène, aux idées et tout. Et ce travail-là, je le trouve super parce que j'ai jamais fait ça de la création pure à trois, quoi. À part dans les chansons qu'on a déjà faites.
Oui. En fait, il y avait une version 1 de fin de soirée. On a obtenu une bourse pour faire une version 2 avec Alexandra Henry, mais pas que. On a aussi travaillé les chansons avec Mickey Bocard, qui est un improvisateur et un musicien et un comédien qui nous aide à travailler les chansons. Et tout ça a été permis aussi grâce à notre agent, Damien Resta, qui nous pousse à faire ce projet, qui est un projet qui est un peu inédit, on pense, qui est un projet qui mêle à la fois du stand-up, de la musique. Ça va pas être que des sketchs, mais il y aura probablement des petits moments un peu plus sketch dedans. Peut-être qu'on veut mettre un peu d'impro. En tout cas, ça va être un truc un peu hybride. Les trios de stand-up.
Depuis Les Inconnus.
Allez, les filles. les trios de trois meufs qui font du stand-up. Je sais pas s'il y en a beaucoup, en fait.
Je sais qu'il y avait Manon Le Pomme qui faisait un spectacle avec deux autres humoristes, mais je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Trois Amis, quelque chose comme ça.
Ouais.
Qui faisait ça en trio, mais sinon, de mémoire comme ça, j'en ai pas d'autres qui viennent, quoi.
Florence Foresti a commencé avec deux autres amis aussi. Elles étaient à trois il y a longtemps. Et elle faisait du sketch, principalement, ouais.
Parce que c'est plutôt, genre, qu'il y ait des trios d'humoristes, ça, il y a, ça c'est sûr, mais des trios de stand-upeuses qui font du stand-up, de la musique et parfois maintenant du sketch, je sais pas si c'est très courant.
Ouais, je crois pas. Et d'ailleurs, demain, on va tester la première version d'une nouvelle chanson aussi.
Ouais.
Ça va être qui tout double. Je pense que le Kings va nous regarder en cas.
Qu'est-ce qu'elles font ? Je suis trop fière de cette chanson. Cette chanson nous rend trop heureuses.
Oui, ouais, trop bien.
On l'a écrite en résidence et tout, c'était trop bien. Maintenant, on va la tester sur scène. Ça va être crash test, quoi.
Okay. J'ai hâte de l'entendre parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir le spectacle que j'ai beaucoup aimé et que je pense qu'il peut ouvrir à des gens qui aussi sont moins fans du stand-up pur. Ça peut les amener à aller voir un spectacle où il y a plusieurs ambiances, il y a des ruptures dans le ton puisqu'il y a trois personnes, donc il y a trois façons de faire, il y a les chansons aussi. Mmh. Donc je trouve ça très intéressant pour des gens qui veulent découvrir aussi plusieurs humoristes et qui se disent bah je sais pas si je vais accrocher sur un spectacle complet puisque c'est aussi trois humoristes qui travaillent un spectacle donc qui est en création, mais je trouvais ça vraiment chouette et les moments où vous êtes ensemble, il y a l'amitié que vous avez les unes pour les autres qui ressort beaucoup et donc j'ai beaucoup aimé donc n'hésitez pas à aller voir le spectacle.
Oh.
Donc le 27 Merci. Mars prochaine date et 24 avril, prochaine date après la sortie de cet épisode puisque vous en avez une demain, mais là désolé je n'aurai pas monté l'épisode pour demain, je suis vraiment
c'est
désolé
okay.
Il y a pas de problème,
je suis aussi okay, un people pleaser mais demain j'ai pas le temps. Sinon au niveau plateau, Marine, t'as aussi le gentil comedy club ou c'est terminé?
Non, la prochaine c'est vendredi. Ton nom est sur les prochains. Enfin, j'ai
que
j'ai envie de
t'inviter.
C'est ça, oui, bien sûr. Non, oui, parce que je me suis dit pareil, on va continuer à tirer en fait. Et alors, il s'avère que quand j'ai lancé le gentil, il y a un compte à Strasbourg qui s'appelait aussi gentil parce que comme une abruti, j'avais pas vérifié. Et ça s'est réglé comme des gentils, à savoir que on s'est écrit, j'ai dit, oh, je savais pas du tout, t'es le bienvenu, tu viens quand tu veux. Si j'avais pas, il me dit, ah mais non, mais pas de souci, c'était juste pour te dire. Mais toi aussi, tu viens quand tu veux. Oh, ok, trop bien, merci. Bisous, enfin c'était vraiment...
J'aurais adoré que vous chiez l'un sur l'autre, que vous battiez. Les deux trucs s'appellent le gentil comedy club et qui se retrouvent dans la rue devant Kings
en mode,
c'est qui les gentils? C'est nous. Comment tu nous piques notre concept, espèce de sale...
Oh là Non, oui, tout à... mais j'ai eu peur de ça parce que moi ça me terrorise ce genre de truc et ça me terrorise en fait qu'on me dise c'est ma blague ou c'est mon truc. Et là c'était vraiment mon pire cauchemar et en fait il a été adorable. Mais en tout cas voilà, donc ça c'était chouette et là pareil c'est juste parce que il y a eu que deux sessions pour le moment qui étaient trop cool. J'aime bien l'idée d'avoir un plateau, je peux faire ma progra, créer un environnement sympa. En plus c'est au Sounds à Bruxelles qui est un club de jazz qui est juste trop beau et j'ai trop hâte en fait que ça prennent un peu de nom pour qu'on ait un Sounds un peu full rempli quoi. Ça demande beaucoup de travail et de temps que j'ai pas toujours, mais j'ai pas envie de lâcher ce projet, je trouve ça vraiment chouette et ça me permet moi peut-être de tester des nouvelles blagues aussi si je peux, même si je fais pas des passages entre, en fait je passe et je présente très rapidement pour juste faire en sorte que les gens se sentent bien, mais enfin avoir un lieu comme ça un peu à moi qui continue sur le gentil avec plein d'humoristes que j'aime bien, je trouve ça plutôt chouette. Voilà.
Moana, tu as animé plusieurs fois pour le What the Fun au Centre culturel de Floreffe ou pour le Winner Hall où vous partagiez avec Marine d'ailleurs. Pardon, et Lola aussi.
Oui,
qui a le somme de pas être là.
C'est trop tôt.
Parti trop tôt. Ah là là, qu'est-ce qu'elle doit se marrer quand même.
Elle doit se marrer.
Mais est-ce que le rôle de MC, c'est quelque chose que vous aimez tous les deux remplir et que vous trouvez que vous faites bien?
Moi, j'adore ce rôle. C'est un rôle dans lequel j'ai beaucoup plus de liberté parce que, comme disait Marine, effectivement, c'est un truc sur lequel je travaille. J'aime beaucoup écrire et comme je choisis soigneusement chaque mot, ce qui est parfois une erreur. Des fois, je me colle à mon texte vraiment trop.
Même team.
Et c'est un truc que je suis en train d'apprendre à ne plus trop faire parce qu'en fait, quand on se laisse un tout petit peu plus de liberté, en fait, on est plus drôle parce qu'on est plus spontané. On le sait. C'est pas pour autant qu'on le fait, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel je travaille. J'essaye de travailler beaucoup. Mais quand on est MC, il y a pas de texte en fait. On fait ce qu'on veut. Et moi, venant du monde de l'impro, c'est aussi quelque chose que je sais faire. En fait, c'est même quelque chose avec lequel j'ai commencé, être sur scène sans aucun texte. Et c'est quelque chose que je fais bien, je pense, et que j'adore faire. Et le rôle de MC me reconnecte avec ça, parce que quand on est MC, on n'a pas besoin d'être drôle. Quand on est MC, on doit juste mettre une bonne ambiance, et ça enlève tout de suite la charge qu'on se donne en tant qu'humoriste d'être drôle, d'être rythmé, de faire des punchlines et tout ça. Donc ce rôle-là, je l'aime beaucoup, et c'est aussi un rôle, je trouve, et qui est parfois un peu que je vois pas toujours partout, mais qui je trouve que c'est très important. Le rôle du MC, c'est aussi de mettre en confiance les humoristes avec qui on est. C'est-à-dire que si les humoristes passent un bon moment hors scène, ils vont passer un bon moment sur scène. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, le care, en fait, faire attention aux gens qui sont avec moi sur le plateau, et ensuite faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, en fait, le public et les humoristes. Et je crois que ça c'est fondamentalement le rôle du MC. Du coup, c'est un rôle que je trouve trop cool.
Et toi, Marine ?
Oui, pareil. Au plus les gens sont à l'aise avant la scène, au plus ils passent un bon moment. Même si, par exemple, tu vois, t'as 15 personnes dans ta salle, c'est pas, enfin, entre 10 et 15 personnes, c'est pas ouf. Les gens sont quand même contents d'être là parce qu'on est ensemble, parce qu'on se marre, parce qu'on va tester des trucs, parce qu'on passe un moment joyeux. Et ça, je pique une des phrases de Moana, que le stand-up, c'est avant tout des moments de joie. En tout cas, moi,
c'est la personnel. Base.
Voilà, c'est ça. C'est un peu la base. Et donc, l'idée, c'est de faire un bon passage, etc. D'accord? Mais avant tout, de passer un bon moment. Et la première fois que j'ai fait MC, j'étais hyper stressée et c'était ok. Et en fait, au fur et à mesure, on a de plus en plus confiance. Je trouve qu'on apprend de plus en plus à traiter avec des salles qui peuvent être un petit peu dissipées aussi.
Ouais.
Parce qu'il faut quand même le faire, toujours dans la joie et la bonne humeur, mais faut quand même le faire de temps en temps. Et c'est vrai que jusqu'ici, le fait de prendre soin des humoristes qui passent sur scène, mais en fait, ça change tout pour moi dans la performance. Il y a des gens qui en ont peut-être pas besoin, mais je pense que malgré tout, ça fait la différence. Moi, je sais que j'en ai un peu besoin, et au pire, si j'ai un MC qui me parle pas plus que ça, c'est pas grave, je fais le taf et je me focalise sur la scène et tant pis. Mais c'est encore mieux de se dire, j'ai envie d'arriver avant et j'ai envie de rester jusqu'à la fin, de voir tout le monde. Moi, parfois, je double book ou triple book, enfin, ça arrive aussi. Mais j'aime bien me dire, bah non, je double book pas, ce soir, ça va être quelque chose d'important, ça va être un moment chouette, j'ai envie de passer du temps, de parler aux gens et de m'amuser, quoi. Et j'aime trop.
Dans ce que vous dites, je me reconnais parce que je fais MC aussi. Mais ce que j'aime aussi et que je développe, et que, parce que moi je suis un peu comme Moana, très attaché à mon texte quand je fais un passage, c'est que ça me permet de découvrir mon naturel sur scène que j'ai pas toujours quand c'est un texte, parce que on voit que c'est un texte, et le fait d'animer sans texte permet de découvrir un peu. Je suis comme ça quand je suis naturel, il faudrait que je l'intègre plus dans mon texte et juste dans la façon de parler, de m'exprimer aux gens. Ouais, j'aime beaucoup le rôle d'MC, je m'éclate à la soirée test.
Mais c'est trop bien.
C'est trop chouette.
Et je t'ai vu et c'est trop cool, t'es un trop chouette MC. T'étais hyper bienveillante, donc ça a fait du bien d'être sur tes scènes. Et je rebondis sur ce que tu disais aussi. Moi, maintenant, j'essaye au maximum de me forcer à faire des blagues que j'improvise après chaque passage. J'ai un petit gimmick que je fais quand je suis à l'aise, genre un humoriste passe et j'écoute tout son passage, ça me force à écouter tout son passage, et après je dis, je retiens deux choses de ce que nous a dit la personne, et à partir de là, je dis des blagues. Et des fois, c'est des impros totales. Et en faisant ça, c'est-à-dire en écrivant pas du tout, ce qui pour moi est vraiment sauter d'un avion sans parachute, voilà.
Ce qu'on déconseille au passage.
Décédé, clairement.
Ne le faites pas.
Essentiellement crever, quoi. et ben, faire ça, ça m'a permis de développer des blagues que maintenant je fais dans certains de mes sets, en fait. Parce que j'ai eu une idée en écoutant un humoriste, en disant, ah, ça me rappelle ça, je vais en parler sur scène. Ah, en fait, ça maintenant, c'est dans un de mes 10 minutes, j'intègre ce truc-là.
Trop bien.
Par rapport à ça aussi, ouais, trouver son personnage naturel sur scène, c'est vachement bien. Ça reste un personnage pour moi, mais c'est vrai que...
Plus proche de toi, quoi.
C'est ça. Et du coup, il est plus sincère et c'est trop chouette. Et en plus, moi, je trouve, je trouve que les plateaux d'humoristes, pour moi, ça reste des formes de spectacle. Et donc, quand tu écoutes ce qui se passe avant toi, je trouve ça intéressant de pouvoir parfois, toi, rebondir dans tes passages. Et qu'en fait, le truc, c'est que s'il y a un humoriste ou une humoriste avant toi qui a parlé d'un truc et que tu utilises par exemple le même mot dans ton passage mais que tu rebondis pas sur ce qui s'est passé avant, je trouve ça dommage, je trouve ça empêche un espèce de callback où tu peux dire, ah bah comme disait d'ailleurs Oriane quand elle a dit ça m'a fait penser à, et en fait je trouve ça encore plus chouette d'avoir ce sentiment de, j'ai écouté mes collègues, alors faut pas le faire tout le temps, c'est pas grave, enfin j'ai pas de, mais je trouve ça assez intéressant de créer de la connivence avec les humoristes et le public de cette manière là.
Le truc, c'est que quand quand on fait beaucoup de plateaux d'humour, on connaît fort par cœur tout ce que tout le monde fait. Et il y a des fois où je comprends complètement, on arrive, on est fatigué. Enfin, moi, ça m'est aussi arrivé récemment de partir plus tôt parce que je suis crevée, je combine plein de choses et tout. Et donc, on n'a pas forcément l'énergie de tout écouter et notre cerveau va ailleurs. Mais je trouve quand même que si on peut, au maximum, genre s'imprégner de ce que font les autres, écouter, leur montrer de l'attention, être là et pas forcément être sur son téléphone, genre écouter au maximum ce que font les autres humoristes, c'est vachement bien aussi parce que ça nous permet aussi nous d'être plus présents dans ce qui va se passer et d'être à la fois de respecter ce que font les autres, mais aussi d'être meilleur sur scène, je pense.
Je suis à fond d'accord avec ça, mais d'ailleurs ça me permet de lancer la suite, alors parce qu'on parle d'espace safe où on peut s'exprimer et tout ça. Cette année vous avez lancé la deuxième saison de l'Atout Comedy Club que vous avez créé en 2021 avec Hortense, Céline Scoyer et Lola Destienne, j'espère que je prononce bien les noms de tout le monde.
Oui. Tout à fait.
Il s'agit d'un collectif qui cherche à offrir un espace plus safe pour les femmes et les minorités de genre dans le milieu du stand-up. Aujourd'hui vous avez un open mic au Petit Kings, des soirées au Centre Culturel de Bruxelles qui sont trop chouettes, j'ai été voir la dernière qui était trop chouette, et des soirées de gala à Los Moelle, que j'ai vu également une fois qui est super chouette. Je trouve que Hortense et sa vente aux enchères m'éclatent.
Une star.
On l'embrasse. Elle n'est pas partie trop tôt, contrairement à Lola.
C'est horrible qu'on parle de Lola.
On n'arrête pas de parler d'elle, elle va être contente.
Si. Elle a pris, si ça se trouve, un saut en parachute. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Pardon.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet et de ce qu'il apporte dans le milieu du stand-up?
Non.
Okay. Oh,
si,
et on passe à autre chose.
Pardon.
Je peux commencer si tu veux.
Je t'en prie.
L'Atout Comedy Club, c'est venu d'une volonté, même plus que d'une volonté, d'un besoin de sororité, pour utiliser des mots un peu connotés, féministes, parce que... Bon, l'histoire de l'Atout Comedy Club, on l'a déjà raconté plusieurs fois, mais c'est que Lola s'est inscrite à un concours d'humour, le Next Princess of Comedy, mais à l'époque qui s'appelait le Next Prince of Comedy, qui est le concours du Kings of Comedy Club, maintenant qui s'appelle juste le Kings. Et dans ce concours, il y avait 60 personnes, et sur les 60 personnes, il n'y avait que 3 femmes. Ce qui, je suis pas experte en démographie, ni en statistiques, ni en maths, mais est quand même très peu représentatif de la réalité du monde, à savoir qu'il n'y a pas que 3% de femmes dans le monde. Il y en a beaucoup plus, 51.
Waouh.
Ouais, je dénonce.
T'es trop.
Et même pas représentatif du nombre de femmes dans le stand-up.
Et même pas représentatif du nombre de femmes
parce
dans le stand-up.
Parce qu'il est inférieur au nombre d'hommes en termes de pourcentage, mais on est plus dans les 45%, il me semble, selon les dernières estimations.
Oh là 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 là.
Oui, on est sur du 40%, 40-45%.
Et à Bruxelles, depuis 2-3 ans, c'est
ça
en
explose.
Train de...
Est-ce que c'est une bonne chose?
Est-ce que c'est grâce à la tour? Je ne sais pas.
Il a dit, est-ce que c'est une bonne chose?
C'était pour la blague. C'était pour la blague.
Tu es cancel, Régis.
C'est moi qui fais le montage. Je dis ce que je veux.
J'en ai rien à faire.
Je prends vos mots, je les replace dans une phrase, je dis ce que je veux.
Je suis la seule à pas être cancel. Toi, tu vas faire ton coming out in cell, toi, Moana.
Ah oui.
Toi,
mais
Régis,
attends,
bravo.
À la fin du podcast, tu vas bientôt être cancel. Et donc, c'était pas possible. Enfin, c'est tellement pas représentatif ni du monde, ni de la réalité du stand-up que Lola s'est dit, OK, mais en fait, il faut plus de meufs dans le stand-up. Donc, elle a proposé dans un groupe Facebook de créer un autre groupe Facebook qui s'appelait L'Atout Charme. Parce que souvent, sur les plateaux, c'est beaucoup moins le cas, je crois. Mais ça m'est quand même arrivé il y a un an, je pense, mais c'est quand même beaucoup moins le cas. Mais il y avait ce truc de quand il y avait une seule meuf sur un plateau, de dire « Et l'atout charme de la soirée, nanana nan. »
Qui était souvent utilisé pour, dans le Jamel Comedy Club pour présenter Amel Chabi, par exemple.
Oui, oui, exactement. Ça vient d'ailleurs de là, l'expression, je crois.
Si tu le dis.
Enfin, en tout cas, c'est de là que Lola l'a prise, en tout cas. Et donc, nous, on a pris le terme « atout » et on l'a twisté pour dire bah, « En fait, on est un atout ». Les gars, et il y a quoi? Et donc, du groupe Facebook est devenu un collectif qui s'est organisé et voilà. Et moi, sans l'atout Comedy Club, et en tout cas sans l'atout Charme, le groupe Facebook à l'époque, j'aurais pas commencé le stand-up, je pense. Parce que on a fait des sessions d'écriture en ligne, parce qu'à l'époque, c'était pendant le Covid, où il y avait Lisa Delmoitier et Fanny Ruet, notamment. C'est en faisant ces séances-là et en me disant okay, en fait, je suis entourée d'autres meufs qui ont cette volonté que je me suis dit, en fait, je pourrais peut-être le faire. Et on s'est dit, si nous, on fait ça, il y a probablement plein d'autres meufs qui peuvent se dire ça. Et puis après, quand on a commencé à être dans le stand-up, c'était plus une volonté de... L'Atout est devenu aussi une volonté de se protéger du sexisme, en tout cas. En tout cas, pour moi, il y avait un côté de... Il y a des choses encore dans ce milieu qui, pour moi, sont difficiles à vivre. Et l'Atout est comme un refuge, en fait. L'Atout est un endroit où je me sens vraiment, fondamentalement, bien. Et ça, j'en ai besoin. Voilà.
C'est pas ce que je peux dire de plus. J'ai trouvé ça extrêmement complet. Je plussois tout ce que tu dis. Voilà. Tu es extraordinaire.
Oh.
Et maintenant qu'on est revenu sur votre actualité, dans le podcast, moi, j'aime remonter le temps. Et donc, pour votre future page Wikipédia, j'ai besoin de savoir, vous êtes né où et quand?
Est-ce que c'est pour notre future page Wikipédia ou parce que tu veux savoir notre thème astral?
Les deux.
On va te rajouter sur Costa Astrologie.
Attention.
Poisson, ascendant bélier, ma lune est en lion.
Oh, waouh, lune en lion, c'est pour ça que t'es sur scène.
Possiblement.
Non, c'est sûr.
Moi, personne ne croit quand je dis que je suis lion, alors que franchement... Bon, bref, on s'en fout. Pardon, bah, je peux peut-être commencer?
Ouais.
Je vais me faire cancel. Non, je suis née à Versailles.
Allez,
bah
oui, j'en parle un tout petit peu. Le 9 août 1989. Mmh. Le jour de la Saint-Amour, si vous voulez tout savoir.
Oh.
Moi, je suis née à Lyon le 21 juillet 1992.
Deux personnes nées en France. Et je le savais pour Marine, je le savais pas pour moi, non.
Et si,
elle était en sous-marin.
Ah.
Et si, je ne le revendique pas forcément sur scène, mais je suis française.
Les informations sont lancées. On saura tout dans ce podcast, c'est incroyable. Et est-ce que enfant, vous étiez déjà des gens drôles?
Oh, c'est une bonne question ça. Je ne sais pas, je faisais beaucoup rire ma mère.
Ce qui est un bon début.
Et je m'amusais beaucoup et je montais beaucoup de spectacles, beaucoup de petites vidéos avec mes cousins. Il y a des catastrophes sur Dailymotion qui sont encore là, que je ne citerai pas pour des raisons de la honte, mais
on
oui,
va retrouver. On va aller faire du deep.
Mais tu trouveras pas, c'est pas possible. Mais c'est une cata.
Alors, justement, j'ai une vidéo.
En tout cas, j'étais une enfant joyeuse qui faisait rire les gens. Oui, je pense un petit peu quand même. Mais en tout cas, moi, j'aimais beaucoup rigoler avec mes copains et mes cousins et ma famille et tout le monde. Surtout dans ma famille, les gens étaient très drôles. Mes cousines étaient très drôles. Mes tantes étaient très drôles et donc et mes cousins aussi. Donc le rire. Okay. C'était cool.
Ça marche. Et toi, Marine?
Moi, j'ai des réminiscences de moi en train de refaire des sketchs de Danny Boone pendant le dîner.
Hot.
Very hot, où je les connaissais par cœur. Swag. Et je sais que je faisais beaucoup rire ma famille, mes sœurs et j'ai trois grandes sœurs et mes parents. Je sais que je les faisais beaucoup rire. Je crois que les références de Danny Boone marchaient pas forcément en maternelle. Donc, mais que.
Et Timéo, mais ton kawé! Le kawé, Timéo!
Ça aurait pu marcher. Franchement, le kawé, c'est ce qui est assez ouvert pour des
enfants. Non, attends, moi j'étais. Je crois qu'il y a un spectacle encore avant du kawé.
Possiblement.
Avant le kawé.
Je suis un peu, ouais. Et du Eric et Ramzy aussi beaucoup. Et donc j'aimais beaucoup refaire des sketchs du coup comme ça. Et je faisais beaucoup rire ma famille et mes cousins aussi. On rigolait beaucoup avec les cousins.
Et est-ce que vous regardiez beaucoup des spectacles? Vous alliez voir des spectacles d'humour? Vous en regardez beaucoup à la télévision? Je sais, Marine, que apparemment tu aurais une passion maladive pour les Robin des Bois qui frise l'obsession selon. Mes sources.
Mais attends, c'est qui est ta source?
Quelqu'un qui est parti trop tôt.
Ah, t'as appelé Lola avant de... Oh.
Ah ouais, c'est hardcore, les Robin des Bois. J'adore. Pareil, truc doudou, c'est, je me refais les Robin des Bois, je me refais les Monsieur Marcadet, je me fais les Sophie Pétoncule, je me refais les Free de Bidehu. Plein de choses qui passeraient plus du tout aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est vraiment un humour qui me bute. Ça et les 2 minutes du peuple de François Pérusse aussi. Oh, oui. Pareil, que je connais par cœur. Idem, plein de trucs qui aujourd'hui et heureusement ne passeraient plus. Enfin, ça c'est une évidence. Du coup, qu'est-ce que ça dit de moi que c'était mes go-to? Je ne sais pas. Mais les Robin des Bois, ouais. Maurice, enfin, je vais pas tous les citer évidemment, mais et alors, c'est marrant parce que là, je vais citer qui est pas un Robin des Bois, mais genre un de mes rêves, ce serait de rencontrer Alain Chabat. Mais en fait, c'est parce que quand il passait sur Comédie et que c'était Alain Chabat qui était présentateur, c'était La Grosse Émission, je crois. C'était comme ça que ça s'appelait? Non, je sais pas.
Oui.
Ouais. Putain, c'est fou la mémoire. C'était pour moi hilarant. Il y a notamment un sketch de Pouf le cascadeur avec Alain Chabat qui est juste... Pff, c'est incroyable, quoi. Donc oui, oui.
Est-ce que tu allais voir des spectacles? Le genre de choses que vous alliez voir en famille ou pas du tout?
Pas trop. Quand j'étais plus grande, quand j'ai commencé à travailler chez Juste pour Rire, on y allait un petit peu plus. Ah, tu savais pas ça? Ah, alors les sources. Non, je sais pas pourquoi j'ai voulu te shamer là-dessus, ça n'a aucun intérêt.
Je suis confiée dessus.
En fait, quand je suis fatiguée, il y a ma vraie nature qui ressort. Je suis pas du tout aussi gentille. Dark Marine. Non, pardon. Mais voilà, donc pas tant que ça. Et après, en fait, moi, je suis allée en voir énormément parce que j'ai travaillé avec. Mais du coup, voilà.
Ok. Et toi, Moana ?
Alors moi, aller voir des spectacles compliqués, rapport au fait que j'habitais dans un endroit qui s'appelle Romans-sur-Isère et où il n'y avait pas énormément de spectacles d'humour, d'humoristes connus, en tout cas. Des chouettes moments de clown et tout ça, et de cirque, mais pas de... pas d'humoristes connus. Sauf une fois où Jamel Debbouze est venu au théâtre des Cordeliers à Romans-sur-Isère. Non, mais c'était un événement.
S'en rappelle.
Et, mais si, bien sûr qu'il s'en rappelle. Attendez, je suis hyper premier degré. Parce que, il s'en rappelle parce que sa femme habite, vient de pas très loin en Isère.
Thurio?
Hein?
Mélissa Thurio.
Mélissa Thurio vient de, je veux pas dire une bêtise, mais vient d'à côté de Saint-Marcellin, qui est à côté de Romans-sur-Isère. Bref. Donc, il connaissait la région. On était trop contents. Et moi, Jamel Debbouze, j'avais aussi saigné un de ses spectacles. Je sais plus, 100% Debbouze, ouais. Je l'avais beaucoup, beaucoup regardé.
Moi aussi.
J'étais trop heureuse. C'était une star qui était au Cordelier et on pouvait la voir, quoi. On pouvait l'approcher pas de si près que ça, mais quand même, on pouvait le voir. Moi, en fait, mes cousines m'ont beaucoup fait regarder Jamel Debbouze, effectivement. J'ai une admiration pour mes deux cousines, donc je regardais beaucoup ce qu'elles regardaient. Donc, elles m'ont fait découvrir Jamel Debbouze. J'ai regardé le Jamel Comedy Club en DVD. Le DVD du Jamel Comedy Club, et ça j'ai regardé avec mes amis. On connaissait par cœur les sketchs de les chansons de Yacine et Dedo.
Yacine et Blanche.
Claudia Tagbo. Il y avait qui que j'aime.
Pas Kéron aussi.
Saison 2, Kéron.
Ouais, dans la saison 1. Moi j'ai regardé la saison 1
saison
en DVD
1, c'est
plein de fois.
Thomas Njijol.
Fabrice Eboué.
Yacine Bellous.
Amel Chabi. Voilà, tout ça j'ai regardé en boucle. J'ai regardé le spectacle de Gad Elmaleh. Est-ce le spectacle de Gad Elmaleh? Je ne sais pas. L'autre, c'est moi. Je l'ai beaucoup regardé. Et puis après, avec mes parents, en fait, ma mère était une grande fan du... Enfin, elle n'est pas morte, mais quand on est... Je me suis rendu compte, maintenant que j'y réfléchis, que...
Non, moi, j'ai failli faire une blague.
Oui, je sais. Je ne sais pas si je pouvais me permettre de faire cette blague. Non, je me suis rendu compte, quand on était petite, qu'elle nous a fait regarder plein de trucs. Donc, j'ai regardé tous les deux Funès, Les Visiteurs. J'ai regardé on a regardé Marie à tout prix, une comédie américaine avec mes parents.
Qui n'est pas problématique du tout.
Qui est hyper problématique. C'est tellement problématique. On a regardé aussi, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup regardé les Étienne Chatiliez. Le bonheur est dans le pré. La vie est un long fleuve.
L'amour qui est dans le pré.
Non.
Pardon.
En fait,
c'est La vie est un long fleuve tranquille.
La vie est un long fleuve tranquille. Qui, maintenant, problématique à plein d'égards, mais qui, à l'époque, était très drôle. Donc, j'ai regardé plein de vieilles comédies françaises, mais j'ai beaucoup, beaucoup, rigolé. Voilà. Et puis après, avec mes potes, on regardait le service après-vente d'Omar et Fred. Mmh. On connaissait tout, genre le petit journal à l'époque sur Canal+, mais il y avait... Puis après, il y a eu Bref et tout ça, mais on regardait beaucoup de sketchs. On regardait des films ensemble. J'ai regardé en long, en large et en travers, évidemment.
Évidemment.
Pour les Robin des Bois, voilà.
Est-ce que, je me permets, Nulle part ailleurs, tu regardais ou pas les sketchs de José Garcia et Antoine Decaune?
Je les ai regardés sur YouTube.
Ouais, après.
Je les ai regardés après sur YouTube,
aussi,
mais trop marrant.
C'est incroyable, la finesse. Comme quoi, le sketch, hein.
Et est-ce que, quand vous les voyez sur scène...
Florence Foresti aussi, pardon. J'ai oublié de la citer. Florence Foresti, j'ai regardé son spectacle 1000 fois et ses vidéos sur YouTube 1000 fois. Enfin, les vidéos chez Ruquier plein de fois. Voilà.
Ça marche. Et est-ce que quand vous les voyez sur scène, tous ces humoristes, vous vous disiez, moi, je vais faire ça? Ou pas du tout?
C'était un rêve d'enfant, mais inatteignable. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je viens de Romans-sur-Isère. Donc vraiment, le fait que Jamel... C'est un vrai truc. Le fait que Jamel Debbouze vienne, c'était un événement pour la ville. Donc, c'était pas imaginable de faire ça.
Okay.
Mais par contre, j'ai écrit mon premier sketch quand j'avais 8 ans avec ma cousine.
Okay.
On a fait des trucs où on lisait... Elle venait me garder les étés, tous les étés. Et donc, cette fois-ci, on a genre... ouvert un dictionnaire, il y avait un mot qui s'appelait, c'était sphénodon, on est tombé sur un mot hasard, c'était sphénodon, et la définition de sphénodon, c'était ateria, et c'était un autre mot qu'on connaissait pas, on était là, ah, trop marrant que le mot qu'on connaisse pas, la définition, soit un mot qu'on connaisse pas, et on en a fait un sketch qui,
c'est
à mon avis,
hyper drôle.
Ouais, c'est
premier degré, c'est hyper drôle.
Moi, je trouvais ça drôle, et on a écrit un sketch ensemble, avec ma cousine, et puis, je m'étais dit, en fait, écrire et monter sur scène, faire rire, mon rêve, mais, je me suis jamais dit une seule seconde en regardant Jamel Debbouze à Romans-sur-Isère, un jour je serai à sa place. Jamais.
Et toi, Marine?
Un peu pareil. En fait, ouais, moi, j'avais trop envie d'être comédienne. J'avais envie d'être au-delà de du stand-up. J'avais très envie. Enfin, j'avais envie de faire du stand-up et aussi d'être comédienne, de jouer soit au théâtre, soit à la télé, soit machin. J'avais très 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 envie de faire ça. Mais pareil, c'était impossible. J'ai très très ça va mieux aujourd'hui, mais très très peu confiance en moi. Et j'étais vraiment là. Ça n'arrivera jamais. Donc, je vais juste la garder avec des étoiles dans les yeux et ça va être super. Et c'est tout un chemin pour assumer qu'un jour, en fait, si, on va essayer, quoi.
Et est-ce que, à l'adolescence, vous avez eu envie de monter sur scène, de faire du théâtre, de l'impro, ou c'est arrivé un peu après, je ne sais pas trop?
Je veux faire du théâtre depuis toute petite. Donc, je créais mes propres spectacles dans mon salon ou avec mes potes et mes cousins. Et puis, quand j'ai eu 10 ans, donc quand je suis rentrée au collège, je voulais absolument faire du théâtre avec mes amis, mais il n'y avait pas de club de théâtre. Du coup, on a créé un club de théâtre clandestin parce qu'on était des gros thugs. Et du coup, on allait dans le foyer, donc qui était la salle commune du collège, et on se cachait comme ça et on répétait une pièce de théâtre. Et donc, les pions venaient nous voir et disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» On était là, on fume de la drogue. Non, c'est pas vrai.
Alors que c'est vraiment pas interdit.
On avait pas le droit d'être dans la salle commune sans autorisation.
Ah.
On était là, genre, on fume de la Marie-Jeanne. Non, c'est pas vrai. On lit des didascalies. Gros thug. Et donc, on a tellement voulu faire ce club de théâtre qu'à la fin, on a présenté la pièce qu'on avait faite nous-mêmes sans que personne nous demande rien devant notre prof de français. Et l'année d'après, une autre prof de français a créé un club de théâtre et du coup on est
wow.
J'ai commencé le théâtre vraiment avec une prof à ce moment-là, voilà, et j'ai fait du théâtre pendant 10 ans.
Et l'impro, c'est arrivé après?
Et l'impro, en fait, quand je faisais du théâtre, j'aimais vraiment beaucoup ça, mais ça dépendait souvent du prof qu'on avait. Et donc il y avait des profs qui voulaient faire des trucs marrants et des fois choisissaient quand même des pièces un peu problématiques. J'ai vraiment fait des vaudevilles hyper gênants. Ou alors, c'était des profs qui faisaient des trucs beaucoup trop sérieux, tu vois. Genre, j'ai fini quand j'avais 20 ans, j'étais étudiante dans une troupe étudiante et notre prof voulait faire un truc hyper intellectuel et on a fait une pièce qui s'appelait Willy Protagoras est enfermé dans les toilettes et c'était pas drôle, c'était sur la mort et l'exil, mais à la fin, il s'enduisait de caca. Et quand je raconte ça, c'est drôle, mais c'était pas censé être drôle. Et moi, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des trucs marrants. Et un des trucs que j'aime bien faire, c'est ce qu'on fait au début des cours de théâtre, là, c'est l'impro, là. Ça, c'est marrant, ça. Et ça, c'est souvent que des trucs drôles. Mais j'ai pas rejoint un club tout de suite parce que après, j'ai voyagé pour mes études et tout ça. Et quand je me suis installée à Bruxelles, je me suis dit, ok, j'ai envie de refaire du théâtre, mais j'ai envie de faire de l'impro. Je vais essayer de trouver de l'impro à Bruxelles. Et ce que je savais pas, c'est que Bruxelles, c'est vraiment une ville où il y a énormément d'impro. Et donc, voilà. J'ai commencé l'impro dans le but, en fait, de faire de la comédie. Parce que ce que je préférais dans le théâtre, c'était la comédie.
Toi, Marine, le théâtre, la scène, quand t'étais ado, c'est quelque chose qui t'attirait ou pas du tout?
J'ai juste une question. Pardon. Hein,
ah, vas-y.
Est-ce que tu crois qu'il y a toujours un club de théâtre aujourd'hui et que du coup, ils disent, ah, il a été créé il y a maintenant 15
par
ans?
Par Moana Genevelle, il y a une plaque à mon nom au lycée, au collège André Malraux de Romans-sur-Isère.
Peut-être?
Non.
Ok.
Je pense pas.
Si c'est le cas, peut-être changé la vie. Écrivez-nous. envoyez un message sur l'Instagram du podcast. dites-nous, on veut savoir. On a des gros doutes sur le fait qu'on va avoir beaucoup de messages.
Allez,
il y en aura zéro, je peux te le dire.
On peut espérer.
Défaitiste à fond.
Moi, j'ai fait du théâtre au collège. Je me rappelle qu'on parlait de vaudeville un peu problématique. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai joué la deuxième pucelle. Dans je sais plus quoi.
Pucelle number two.
Vraiment, pucelle number two. J'étais, en plus,
pourquoi
tu vois,
il y en avait
trois, on n'avait pas de prénom. C'était les trois pucelles. Et j'étais la deuxième ou la troisième, je crois. Voilà.
Le titre du podcast, ce sera Moana et la deuxième pucelle.
Et je me rappelle même plus de mon rôle ou quoi, mais à l'époque, je me rendais pas compte. J'étais juste, ah putain, j'ai la deuxième pucelle. C'est trop bien. Et voilà. Et
mes parents sont tellement fiers de moi.
Mes parents sont si fiers. À deux. Tala. Je crois que j'avais genre trois répliques en plus, tu vois. Donc vraiment.
J'appelle deuxième pucelle.
Ouais, j'adore imaginer une petite Marine qui arrive à la maison. Maman, je suis la deuxième pucelle. Oh, viens dans mes bras, ma fille.
Mais non, mais j'avais 14 ans. C'était au lycée. Donc j'avais 16, 17 ans. Et on était habillées toutes les trois. Je vous le donne en mille. En rose. Bon. Donc
ça veut dire en blanc.
Ah oui, c'est vrai. Oh, bah, autant pour moi. Bon, bah, c'était vraiment genre, à votre avis. Bon, mais voilà, le rose. Mais j'aimais beaucoup le théâtre. En vrai, j'adorais ça. Jusqu'à ce qu'en ait fait un moment, il y en ait plus au lycée et que je fasse un truc avec un mec qui a fait un truc hyper premier degré, moderne, arté. Et on avait 15, 16 ans, quoi. Et t'es là, genre. quel ennui. Et après, j'ai arrêté. Et à côté, je faisais beaucoup de musique et de dessin aussi. Donc, j'avais et des cours de dessin et des cours de musique aussi. Et donc, j'avais ça, tout ça un peu mélangé. Et quand j'ai eu 18 ans, j'avais envie de faire une école d'art, mais plutôt de dessin, mais aussi pour poursuivre un peu parce que j'avais vachement envie quand même d'être comédienne et tout ça. Et mes parents m'ont dit, non.
Ils sont en commun avec les miens.
Non. Mais pas, c'était pas méchant.
Ouais, j'ai fait ce que je voulais. J'ai fait prof anglais néerlandais.
Mais non, mais je peux comprendre que, en plus, encore une fois, étant quelqu'un, j'avais pas du tout confiance en moi, donc je suis pas arrivée envers mes parents en disant, je veux faire ça de ma vie, c'est comme ça, et je suis arrivée en disant, pourquoi pas. Et en fait, ils savent que dans un milieu comme ça, il faut vraiment quand même être plutôt décidé pour s'en sortir. Et donc, je pense qu'ils avaient envie de me protéger un peu là-dedans. Voilà. Et du coup, j'ai fait Sciences Po et j'ai vraiment reconnecté avec mon côté artistique scène, en tout cas, il y a 3 ans, quoi, avec le stand-up.
Ça m'amène à ma prochaine question qui était niveau études, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc, toi, t'as fait des études de Sciences Po ?
J'ai fait Sciences Po à Rennes. Et Moana a fait
Sciences Po Grenoble.
Allez,
deux Sciences Po.
Ça qu'on s'entend bien.
Mais oui.
Mais dans l'idée de faire quelque chose en particulier avec ça, ou c'était juste fallait faire quelque chose, j'ai pris des études qui m'intéressaient.
Alors moi, je voulais absolument être comédienne. Et mes parents m'ont dit sommairement, il faut que tu sois la meilleure de la meilleure, donc que tu fasses la comédie française si tu veux être comédienne. Et j'ai dit, bon, c'est beaucoup de pression sur mes épaules.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Petite romanesse de 13 ans. Donc non merci, je vais faire autre chose, je vais être avocate. C'est comme, je me disais vraiment, c'est comme être comédienne, mais dans une cour de justice, quoi. Les plaidoiries, c'est de la comédie un petit peu. Et donc je me suis dit longtemps, ok, je vais être avocate. Et puis quand je suis arrivée au moment où il faut faire un choix en terminale au lycée en France, j'étais là, est-ce que je veux vraiment faire ça et tout, mais je veux être comédienne, mais je veux faire une fac de droit. Et ma mère me disait, mais tu sais, tu peux aussi faire Sciences Po, ça peut ouvrir ça, c'est pas le plus facile, mais ça peut ouvrir ça. J'étais là, non maman, je ferai pas ce que tu diras. Et puis une de mes très bonnes amies de l'époque, Claire, m'a dit, ah moi je vais faire Sciences Po, et j'ai fait, ok, je vais faire comme toi Claire. Et du coup on a fait les concours et j'ai fait Sciences Po dans le but de peut-être être avocate. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, non, il y avait beaucoup plein d'autres options et l'idée d'être avocate a un peu disparu, quoi.
C'est marrant parce que en troisième j'avais fait mon stage d'observation dans un truc d'avocat et j'avais trop envie de faire ça.
Moi aussi.
Et en fait je me suis dit, non, je suis trop émotive. Parce qu'en fait, j'étais là, je vais pas pouvoir m'occuper de gens qui souffrent autant. Enfin, c'est trop.
Ah, wow.
Il y avait un truc vraiment où je m'étais dit, je vais être trop investie dans les histoires de mes clients. Et je crois que pleurer devant eux, je pourrais pas, quoi. Tu vois.
C'est ce que je me suis dit. Non. Ça a l'air compliqué administrativement parlant.
Voilà. Deux ambiances, quoi. Mais moi, j'ai fait Sciences Po parce que je savais pas quoi faire. En fait, d'abord, j'ai fait une hippocagne, qui est une prépa littéraire. Où en gros, c'est un endroit où quand tu sors du lycée, bah, t'as mention assez bien. Donc, t'as une moyenne de 13-14. Et t'arrives là-bas, t'as une moyenne de 7. Et c'est parmi les bonnes, parce que c'est ça la France. Et en fait, donc j'ai fait une prépa intense littéraire parce que ça fait beaucoup, tu sais, ça fait, j'aimais bien la philo, j'aimais bien les trucs de mots. Les trucs de mots, ça n'a pas de sens, mais soit.
Les phrases,
j'aime bien les phrases, j'adore ça. Et en fait, après j'ai fait je me suis dit pourquoi pas Sciences Po. Mon père était dégoûté que j'ai pas Sciences Po Paris, parce que lui a eu Sciences Po Paris, ma sœur aussi, et il a vraiment mal digéré que j'aille en Bretagne alors que je voulais pas du tout aller à Sciences Po Paris. J'étais très contente de pas être prise parce que ça a une réputation un peu, sorry pour tous les Sciences Po Arts parisiens qui nous écoutent, c'est une réputation un peu ultra élitiste. Et j'étais super contente parce que du coup je suis allée à Sciences Po Rennes en Bretagne et c'était génial. J'ai passé 5 années super, mais pareil, je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à ce qu'en 3e année on nous dise de, on rencontre 2 meufs qui étaient parties à l'étranger parce que la troisième année se fait à l'étranger et elle travaillait dans le secteur culturel en tant que chargée de prod ou des trucs comme ça. Et en fait, elles nous ont parlé de cette expérience avec une de mes potes avec qui on voulait aussi partir à New York. Et donc,
New York.
Et en fait, ça, je me suis dit, ah, je pourrais travailler dans le secteur culturel, en fait, de l'autre côté et tout. Et c'est là où j'ai commencé à orienter un petit peu plus mon parcours étudiantin.
Mais donc, là, c'est la partie où j'ai pas les infos. Comment arrive l'impro? Comment arrive Bruxelles? Comment arrive Juste pour rire? Comment arrive le stand-up?
Okay. Waouh! Je peux te donner des infos. Moi, du coup, j'ai vraiment complètement bifurqué. Et je me suis dit, ok, études européennes, relations internationales, voilà. Et donc, je me suis spécialisée dans... D'abord, j'ai fait un premier master sur la gouvernance européenne. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, pourquoi pas étudier en détail le fonctionnement de l'Union européenne.
Quelle bonne idée.
Ce qu'on fait tous quand on ne sait pas quoi faire.
Quand on ne sait pas quoi faire. Pendant 2 ans, et je n'ai toujours pas compris. C'est dire à quel point c'est compliqué. Donc, j'ai fait ce master-là. Je suis partie un an... J'ai notamment fait ce master parce que ça me permettait de peut-être partir un an en Angleterre, et j'avais envie de partir un an en Angleterre. Et donc, je suis partie à Canterbury pendant un an.
C'est mon côté prof d'anglais qui remonte, qui fait « Oh, wow. »
Ouais, c'était chouette. C'était chouette. Beaucoup d'alcool. Très, très chouette. Et beaucoup d'études aussi, pas tant d'études. Vraiment, beaucoup de fêtes. Et puis après, je me suis dit « Mais en fait, j'aimerais bien quand même me spécialiser dans les questions de hippies. » Parce que dans ma classe, il n'y avait pas beaucoup de hippies. Tout le monde était là « Oui, on voudrait être lobbyiste ou on voudrait être député. » Et moi, j'étais là « Oui, mais quid des gens qui défendent les autres, la veuve et l'oppressé ?» L'avocate n'était pas loin quand même. Et du coup, je me suis dit « Ah, je vais étudier les droits humains. » Et on m'a dit... J'ai fait un stage d'abord au Réseau européen contre le racisme à Bruxelles. Et pendant ce stage, on m'a dit « Il y a un super haut master à Venise. » sur les droits humains, enfin c'est Human Rights and Democratization. Vas-y, franchement, c'est trop cool, il y a plein d'options là-bas. Donc j'ai postulé et j'ai été prise à ce master. Et donc j'ai passé 6 mois à Venise. Et...
Il est de ouf à nouveau.
Ouais, c'était trop cool. Et après j'ai fait, c'était 6 mois à Venise et 6 mois dans une université partenaire. Donc j'ai fait 6 mois à Venise, 6 mois à Belfast. Je me suis spécialisée dans l'étude des discours de haine. Donc ça, c'est j'ai écrit ma thèse là-dessus sur les discours extrémistes politiques et tout ça, le racisme et tout ça, et la lutte contre les discriminations en général. J'ai commencé à me spécialiser là-dessus. Et puis après, j'ai dans le programme du master, si t'arrivais dans les 15 premiers, t'avais une possibilité d'aller faire un stage stylé, qui était un peu payé par le master. Et donc, j'ai fait un stage à l'ONU à New York, là-bas, en droit humain. Et donc, je m'aiguillais plutôt vers une carrière droit international et tout ça. Et si tu veux faire ça, un des bons endroits pour le faire, c'est Bruxelles. Voilà, je suis une des personnes que les gens détestent à Bruxelles. Je suis une eurocrate, mais je suis une gentille eurocrate. C'est-à-dire que on défend les gens, on dit on veut plus d'égalité, on dit ça à l'Europe et l'Europe dit non. Mais quand même, s'il vous plaît. Voilà. Et donc j'ai atterri à Bruxelles parce que c'est là qu'il y a du travail pour les gens qui ont fait mon cursus souvent.
Ok.
Voilà.
Donc là, tu arrives à Bruxelles et là c'est là que tu découvres l'impro.
Ouais.
On y arrive. Du coup, Marine, toi, comment tu arrives à Bruxelles et à l'impro? Comme ça, on lira les deux après.
Tout à fait. Donc, en gros, j'ai fait cette troisième année de Sciences Po à New York. Ouais, mais c'était...
Mais on a toutes les deux vécu à New York, en
fait. Bah ouais.
On n'en a jamais
mais
parlé.
Fait, mais tu te m'étonnes qu'on est hyper potes. Regarde-nous, là. Regarde-nous, tout pige une pote.
J'ai 5 jours en vacances.
Ah, super.
Écoute.
C'est chouette. Je mais en vrai, partie du groupe.
Oui, tu fais partie du groupe. Oui, Empire State Building.
Ouais. Yeah. Les cafés à 7$. Yes.
Je bois pas de café.
Allez,
éliminer du groupe.
Avoir envie de crever parce que la vie est chère et les gens sont pas gentils.
Ouais, vraiment. Il y a vraiment eu de ça. Et je suis tombée sur un stage qui en fait était géré par un mec, un Français, qui était horrible, qui travaillait qu'avec des stagiaires meufs.
Oh.
Et en fait, en revenant, je me suis dit, ok, je vais peut-être essayer de bosser dans le secteur culturel, parce que je pense qu'il y a vraiment que ça qui m'intéressait vraiment, en fait. Parce que Sciences Po, fallait trop travailler pour le droit, tout ça. J'étais là, oh là là, la flemme. Et en fait, en quatrième année, je me suis spécialisée en management des organisations pour savoir comment fonctionne plus ou moins une organisation. Mais c'était très entreprise. C'était pas trop culturel, mais c'était juste pour avoir un petit bagage organisationnel, quoi. Et après, j'ai fait un master spécialisé à Dauphine en management des organisations culturelles. Et là, j'ai fait un stage avec dans une compagnie de danseurs de l'Opéra de Paris qui était... horrible. Ça a été horrible. J'ai mon premier pas dans le vrai milieu du travail culturel et je suis tombée sur une sombre merde. Il écoutera jamais ça, donc j'en ai rien à foutre. Qui m'a vraiment un peu trauma. Mais au moment où je me suis dit, il faut que je parte de là, que vois-je pas passé. Et j'ai toujours aimé le stand-up et tout ça, mais je vois une offre de stage chez Juste pour Rire.
Stylé.
Stylé.
Méga stylé.
Et je me dis, bah vas-y, postule, parce que je devais rester encore dans mon stage 2 mois, mais je vais pas survivre en fait. Il est hors de question que je reste. Et sur mon temps de midi, pendant mon stage, où mon maître de stage était en train de me chronométrer limite ou quoi, je suis allée faire un entretien avec Amélie et Aurélie, que j'embrasse, et en fait, j'ai un peu débarqué en disant « Bonjour, vous avez pas répondu à mon mail, du coup je suis là ». Et on dit « Ok ». Ouais, c'était un peu particulier. Et je rentre et je vois, tu sais, le bonhomme vert de Juste pour Rire et tout, bon, qui est aujourd'hui, voilà, c'est, on a toujours été comme... Voilà, voilà, oui, qui est compliqué.
Donc, il y a des problèmes.
Mais c'était, voilà. Et moi, je me sens un peu genre « Oh mon Dieu ». Et en fait, il s'avère qu'elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur quelqu'un et que Amélie, qui était la responsable de production, partait en vacances genre le lendemain. Et elles n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sur quelqu'un. Et je suis arrivée, elles m'ont fait passer un entretien direct. Et 3 heures après, elles m'ont appelé pour me dire, bah, en fait, on s'est mis d'accord sur toi. Et donc, du coup, trop heureuse. Et j'ai fait mon premier stage chez Juste pour Rire. Et j'y suis restée. Mais là, on est encore en France. Donc, je vais très, très vite aller jusqu'à Bruxelles. Je suis restée à peu près 1 an et demi, 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai fait des missions pour la Fête des Lumières à Lyon, où j'étais administratrice générale pendant 4 mois pour un remplacement. J'ai fait, administratrice de tournée pour la compagnie Philippe Gentil, qui était super. Donc, je reste un peu dans le culturel comme ça. Après, j'ai été 2 ans responsable administrative du Sentier des Halles, qui est un théâtre à Paris qui me fait que du stand-up, et c'est là où vraiment je me suis dit ah, j'adore. Et après ça, j'ai bougé à Bruxelles à cause de, bon, peu importe,
pour un homme.
Je suis restée pour moi. Ah, et en fait,
tu es restée à Bruxelles pour toi.
C'est ça. Et en fait, j'ai bossé dans un... J'étais responsable de prod dans un ensemble de musique baroque. Pareil, je suis tombée sur beaucoup de gens compliqués dans le milieu. Mais bon, voilà, c'est pas bien passé, c'est mal fini, je suis partie. J'ai été vendeuse chez Lush pendant 6 mois pour faire un petit break du secteur culturel parce que j'en avais ras-le-bol. Après, j'ai été responsable adjointe du service ULB Culture. Après, j'ai été coordinatrice générale de la FBIA. Là,
ton CV est tellement...
Oui, mais en fait, le truc, c'est que je suis pas restée plus de 2 ans quelque part.
Ok.
Et mine de rien, c'est chouette parce que ça me donne une expérience de fou. Mais il y a un peu un truc de bon, est-ce que... Voilà. Mais voilà. Et donc, FBIA. Et FBIA,
c'est la Fédération Belge d'Improvisation Amateur.
Voilà. Et en fait, avant d'être coordinatrice, j'avais commencé l'impro. J'avais rencontré Moana dans... On était dans une équipe d'impro qui s'appelait Les Aliénés. Et grâce à Léa Charlet, à nouveau, qu'on re-big up.
Big up.
Et je me rappelle notamment, est-ce que je peux raconter une mini anecdote? Je me rappelle notamment d'une des premières improvisations qu'on a faites ensemble. C'était hilarant.
C'était trop marrant.
Et c'était un de mes premiers coachings. Et je me rappelle très bien, t'avais encore les cheveux très longs. C'était notre première impro. Je devais aller quelque part et tu devais m'en empêcher ou l'inverse, je sais plus quoi. Et je m'étais trop marrée avec Moana.
Mais donc, vous avez tous les deux fait de l'impro. Vous en avez tous les deux fait beaucoup. Mm-hmm. De ce que je pense.
Moana, on a fait plus que moi. Moi, j'ai commencé il y a que 4 ans au final.
C'est déjà pas mal, 4 ans d'impro.
Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que ça vous a apporté l'impro dans le stand-up? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ou même en général?
En fait, ce qui a été compliqué au début, c'est que j'ai remarqué que pour moi, les deux disciplines étaient diamétralement opposées, même si c'est deux disciplines de la comédie. C'est-à-dire qu'il y en a une où il y en a une qui se fait en groupe. C'est l'impro, et où tu te reposes sur ton partenaire pour faire rire. Et le stand-up, c'est solitaire. Et puis, dans l'impro, tu arrives et tu n'as pas de texte. Et le public attend de toi... Enfin, le public est friand du fait que tu ne saches pas vraiment ce que tu vas dire, tu n'écris pas, et que tu improvises ce qui se passe. Alors que dans le stand-up, le public attend que tu leur racontes des blagues et se dit que tu as préparé ce qui va se passer parce que tu vas le préparer. Et donc pour moi, dans ma tête, j'ai d'abord très fortement séparé les deux disciplines parce qu'elles étaient très différentes pour moi. Le stand-up m'a apporté beaucoup dans l'impro parce que quand tu t'es pris un tunnel de 10 minutes. Ça ne m'est pas beaucoup arrivé, mais ça m'est arrivé. Genre un bide où tu parles pendant 10 minutes, tu n'as que du vent, personne ne rigole. Tu n'as plus du tout peur d'être ridicule quand tu fais de l'impro. Genre, tu vas beaucoup plus monter sur scène et tester des trucs parce que ça ne peut pas être pire que ce moment extrême de solitude que tu as vécu en faisant du stand-up. Ça m'a beaucoup, entre guillemets, décoincé dans l'impro à beaucoup plus tester des choses et tenter des trucs parce que quoi, au pire les gens rigolent pas pendant 30 secondes et tes potes viennent t'aider et tout le monde a oublié le lendemain, ce qui n'est pas le cas d'un bide. Le bide est très solitaire quand on fait du stand-up. Et par contre, je me rends compte que
ma pratique de l'impro, la façon dont elle influe dans le stand-up, c'est ma présence sur scène et mes personnages. C'est-à-dire que je vais être très corporelle, je vais bouger, je vais faire beaucoup d'expressions, je vais parler avec une voix marrante et je vais prendre le focus en... Et ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le mondial d'improvisation. Donc cette année, j'ai représenté la Belgique au mondial d'impro. Ça se passait à Bruxelles. Et donc, j'ai été sélectionnée pour faire partie de l'équipe belge. Et donc ça, c'est une énorme compétition d'impro avec des gros enjeux où tu joues face à des monstres du genre des Québécois qui sont trop forts. Et le but dans ces enjeux-là, c'est de prendre le focus, en fait. T'es devant 800 personnes, tu joues face à des gens que tu connais pas forcément et qui doivent être plus drôles que toi, parce que c'est comme ça que tu remportes le point. Ou en tout cas, qui doivent être pas forcément plus drôles, mais dont les gens doivent se souvenir plus que toi. Donc, il faut prendre le focus. Et s'entraîner à prendre le focus dans ces conditions, je sens que ça m'a quand même beaucoup aidé après pour les scènes de stand-up pour prendre le focus, juste moi, genre que faire pour que le public ait mon attention, en fait, et que ce soit du verbal, du non-verbal, et pour prendre le focus.
Capter l'attention du public. Et...
Ouais.
Ok. Et toi, Marine ?
Moi, j'ai l'impression que l'impro a été moins important dans mon parcours que peut-être pour Moana, peut-être parce que j'en fais depuis un peu moins longtemps. Je plus sois un peu le truc de plus avoir peur du ridicule. Mais surtout, j'aime bien me dire que du coup, je suis capable de rebondir plus que ce que je pensais avant. C'est pas forcément genre en réagissant sur quelque chose que le public a dit, par exemple. C'est pas forcément en faisant des impros avec le public. Ça, je suis pas très à l'aise parce que j'ai toujours peur de dire une connerie, donc je vais pas trop faire ça. Mais c'est plus de s'autoriser à... T'es déjà dans ton texte et tu penses à d'autres trucs. Et t'autoriser à le dire, pourquoi pas. T'autoriser à le jouer, pourquoi pas. Et te dire, en fait... c'est peut-être 30 secondes dans mon spectacle, mais vas-y, je tente. Ça, l'impro, moi, ça m'a pas mal aidé. Et aussi à l'incarnation un peu, parce qu'en fait, il y a un truc où moi, j'aime bien me dire que la personne que je suis sur scène est très proche de qui je suis en vrai. Ça, c'est sûr. Mais je pense que ça me protège un peu de me dire que je joue quand même un peu un personnage. Et je crois que l'impro m'aide à ça aussi. Je sais pas si ça fait sens.
Ce que je dis.
Oui,
Moi, j'ai compris.
Très bien.
Mais là, c'est un petit truc que je demande à chaque fois que j'ai des improvisateurs dans le podcast. C'est quoi votre catégorie d'impro préférée et la faute que vous receviez le plus souvent ? Là, c'est vraiment pour les fans d'impro. Ouais.
J'ai pas fait assez de matchs pour avoir des fautes, mais...
Les catés que j'aime bien... moi, c'est les catégories un peu jouantes, entre guillemets. Donc, deux catégories que j'ai adoré faire au mondial, c'est un, la réplique imposée. Donc, l'arbitre a un livre et l'arbitre lit un texte. Et moi, je dois improviser les répliques.
Ouais, c'est un dialogue l'arbitre joue un des personnages et l'improvisateur doit jouer l'autre personnage, mais lui n'a pas le texte.
Moi, j'ai pas de texte et j'invente.
Qui est moi ma catégorie préférée à faire en tant qu'arbitre.
Ah ok, moi j'adore la faire en tant qu'improvisatrice et pendant le mondial j'en ai fait une qui s'est trop bien passée et j'ai fait décrocher l'arbitre, ça c'était vraiment une...
C'est incroyable.
C'était une victoire personnelle et la faute que je reçois le plus souvent c'est décrochage.
Ouais, décrochage.
Ouais, décrochage en langage improvisation ça veut dire je rigole, je suis censée incarner ce qui se passe et en fait je n'arrive pas à être sérieuse vis-à-vis de la débilité de ce qu'on est en train de faire, de la bêtise qu'on est en train de faire.
Tu sens qu'elle a son... Elle doit faire un personnage, tu sais, elle essaye d'être cette espèce de perso, soit un peu trop sérieux, soit machin, etc. Mais t'as toujours un petit rictus qui est prêt à partir comme ça. T'as toujours ce petit truc genre, ah bon, tu vois. Et c'est pas très audio descriptif, mais ça se voit quand t'es prête à décrocher et tu cabotines un petit peu aussi.
Oui.
Un petit peu.
Parfois.
Enfin, je me suis permise de dire pour toi. Mais parce que moi, j'ai fait que 3 matchs dans ma life.
Okay.
Donc.
Là, je vais plutôt
des concepts.
Okay.
Parce qu'en fait, 4 ans, tu fais 1-2 ans d'initiation un petit peu, coaching et tout ça. Après la 3e année, j'ai commencé à faire des concepts avec notre équipe à la Croutons et j'ai commencé à faire des matchs que cette année et au final, j'en ai fait que 2 même, je crois. Donc, j'ai pas vraiment de caté préférée. J'avais bien aimé la caté où, je sais pas comment ça s'appelle du coup, où en gros, l'arbitre nous donne un mot et tu dois faire une impro d'une minute avec juste ce mot.
Fusillade.
Voilà.
Fusillade en duo qui est chouette aussi quand il y a
ouais.
Des personnes.
J'aime assez bien parce que t'as pas le temps de réfléchir. Et moi, c'est vraiment mon problème en impro, c'est que je réfléchis trop. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'on dit? Etc. Et qu'en fait, il faut un peu plus que je me mette le cerveau dans le cul.
Oh, et une caté qu'il y a eu au mondial, et après j'arrête, c'est juste que j'adore l'impro. Une caté qu'il y a eu au mondial, c'était PowerPoint improvisé. Et ça, c'était
ça, le rêve de Moana.
Incroyable. Mon rêve. Moi, c'était vraiment la caté que je voulais avoir. Elle est sortie en finale. On l'a fait face au Québec, qui sont c'est les dieux de l'impro. Et on a eu le point. C'était en comparé parce que Donc, on ne savait pas quel PowerPoint on allait avoir. C'était un PowerPoint sur les pigeons. Mais en fait, ce qu'on a fait avec mon partenaire de jeu, c'est qu'on a fait... On était à un séminaire sur les pigeons, mais la veille, on avait couché ensemble et moi, je regrettais, et pas lui. Et du coup, quand on a fait tout le PowerPoint, il y avait toute cette tension entre nous et c'était un de mes meilleurs moments d'impro devant un auditoire de 800 personnes. Enfin, c'était trop bien.
Mais vous faites tous les deux partie d'une équipe d'impro qui s'appelle la Croutouze.
Big up.
Dans laquelle il y a mon incroyable petite sœur.
Oui, Romane.
D'ailleurs, on peut venir
qui est incroyable. Pardon.
Elle est trop forte.
Incroyable, Romane.
Bah oui, voilà. C'était le petit big up à ma petite sœur, qui, je pense, va écouter l'épisode. Donc, voilà. Je fais pas des big up souvent à ma petite sœur. Donc, voilà. Je t'aime, Romane. Oh. Comment vous êtes arrivé, vous, à faire du stand-up, du coup? La première scène de stand-up, comment elle est arrivée?
Ah, toute première. J'adore cette histoire.
Elles sont liées, en fait, nos premières scènes.
Tu m'étonnes.
Parce que
par hasard.
Parce que donc moi j'ai commencé à un moment à beaucoup traîner dans les comedy clubs parce que Léa Charlet, qui fait partie de notre équipe d'impro et qui est une amie, allait beaucoup voir du stand-up et donc j'y allais avec elle. Et puis Marine venait aussi et Marine connaissait un peu tous les humoristes et moi j'étais là genre mais pourquoi cette personne connaît tous les humoristes? Parce qu'elle a travaillé avec tout le monde. Et bref, en regardant beaucoup de scènes de stand-up, j'étais là, j'avais deux sentiments. Parfois, j'avais le sentiment de waouh, je veux être eux quand je suis plus grand. J'ai vraiment regardé Dena, Ino JP, Gaëtan Laferrière. C'est les trois que j'ai vus où je me suis dit je veux être eux quand je suis plus grande. Et puis, il y avait d'autres gens que je regardais dans des scènes ouvertes. Et je me disais.
Attention la cancel.
Mais non, mais je me disais, certains gars, je les regardais faire et je me disais franchement. Je crois que je peux faire pareil, voire mieux que de... Enfin, si c'est ça, faire du stand-up, je peux essayer, quoi.
J'étais pas en forme ce jour-là.
C'était pas toi. J'allais dire des gars qui parlaient de leur bite et c'était pas toi. Et donc, voilà. Et en les regardant, je me suis dit, en fait, tu te souviens de ce rêve que t'avais quand t'étais à Romans-sur-Isère et que ça te paraissait inatteignable? Mais en fait, là, ça a l'air atteignable. Et donc, le Covid est arrivé. Je travaillais toujours dans mon job actuel qui est... Bref, je n'arrive même pas à expliquer ce que je fais. Je dis que je suis gentille lobbyiste, mais je travaille dans un truc où je demande plus d'égalité en Europe. Voilà. Pendant le Covid, mon job consistait à faire des conférences sur Zoom. Et j'étais là genre, mais en fait, pourquoi je fais ça? Enfin, j'ai eu un grand moment de réalisation de, je veux pas faire ça de ma vie, en fait. En plus de ça, à ce moment-là, je suis passée par tout un truc un peu New Age, où j'ai lu le livre Libérez votre créativité, qui est un livre qui aide beaucoup à faire parler son artiste intérieur, hein, que je conseille à beaucoup de gens. Si vous êtes dans un moment où vous avez envie de faire des choses artistiques, mais vous n'y arrivez pas, lisez ce livre, Libérez votre créativité, de Julia Cameron, parce qu'elle conseille de faire des choses qui ne sont pas des choses artistiques, mais qui sont des méthodes qui débloquent des choses qu'on a à l'intérieur de nous pour faire des choses artistiques. Et j'ai vraiment fait ce truc. Une des méthodes qu'il y a, c'est les 3 pages du matin. Donc tu te lèves tous les matins. La première chose que tu fais, c'est que tu écris 3 pages de n'importe quoi, ce que tu veux. Et en fait, le fait de faire ça, instinctivement et normalement, je me suis mise à écrire mon premier sketch de stand-up. Mon premier sketch, personne ne dit ça. Mon premier 10 minutes de stand-up que j'ai fait ensuite relire à Fanny Ruet et que j'ai joué dans mon salon devant mes colocs plusieurs fois. Et c'était eux qui me disaient « Bon, Moana, maintenant tu nous le montres. » Et j'étais là « Non, dimanche prochain. » Ils m'ont dit « Non, non, tu nous le montres. » Et donc j'ai joué ce sketch devant eux. Et après, Bilal et Rudy de l'Open Mic que je fréquentais parce que je traînais dans les comedy clubs sont venus vers moi et m'ont dit « On a une date le 16 août ou le 15 août 2021. Est-ce que tu veux faire ta première scène ?» Et j'ai dit «
Et comment ça s'est passé?
C'était incroyable.
Et de quoi tu parlais?
Je parlais d'un groupe Facebook qui s'appelle Chat et Chaton à donner en Belgique uniquement.
Ah oui, j'ai déjà vu ce sketch.
Et tu vois, quand je te disais, il y a des moments où tu te dis, je vais faire ça de ma vie. Bah, ma première scène, c'était ça. Ma première scène, je suis montée sur scène. C'était dingue. C'était génial. J'ai ressenti genre une joie géniale. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas, évidemment, c'était une première fois. Mais j'étais là genre, waouh! Et je suis descendue de scène et je me suis dit, ok, je vais faire ça de ma vie, en fait. C'était trop bien. Voilà.
Cool. Et toi, Marine, ta première scène de stand-up, toi, tu fréquentais donc des humoristes, tu as travaillé avec des humoristes.
Oui.
Et comment tu as sauté le pas de toi-même devenir l'humoriste?
Eh ben, je pense que c'était le fait d'être à Bruxelles, parce qu'à Paris, je pense que j'aurais pas osé. Parce que justement, en connaissant les humoristes, je connaissais pas tout le monde, mais je connaissais beaucoup, beaucoup d'humoristes quand même. Et j'avais peur de l'image que je pourrais donner de, la responsable de prod qui, finalement, en fait, monte sur scène, il y avait un truc un peu bof. Et je dis toujours cette phrase, un jour, Verino, il s'en souvient pas, mais il m'avait dit, Et quand je lui ai dit, tu te rappelles, tu m'avais dit ça, je me souviens pas du tout. J'étais, ok, bah ça t'a marqué manifestement. Il m'avait dit, ce sont les pires chargés de prod qui peuvent faire les meilleurs humoristes, dans le sens, et j'étais là, t'es en train de me dire que je travaille mal, mais non. En gros, dans le sens où c'est jamais très bon de travailler pour les gens que tu voudrais être, entre guillemets. Alors qu'en fait, en vrai de vrai, et je le sais très bien, je faisais très bien mon travail, c'était pas la question, mais j'assumais pas encore que je voulais être à la place des gens pour qui je travaillais. Et en arrivant à Bruxelles, ce qui est plutôt chouette à Bruxelles, c'est que c'est assez petit, mais ça a les avantages d'une grande ville, j'ai l'impression. Et du coup, tu connais un peu tout le monde, et c'est moins effrayant, je trouve. C'est moins immense, c'est moins genre Paris, tu vois, il y a le truc, je vais faire ma première scène à Paris, enfin, je vais faire une première scène à Paris, mais c'est comme passer ton permis à Paris, c'est comme passer ton permis sur le rond-point de l'étoile, quoi, si tu veux, ça n'a pas de sens. Enfin, je trouve, dans mon esprit, c'était ça. Et à Bruxelles, comme je commençais à connaître un petit peu les, et je connaissais déjà des gens et je connaissais un peu plus la scène bruxelloise et tout, et je me rappelle que à un moment, on était à un stand-up in the park, il y avait Lisa Delmoitier et Lorenzo Mancini, et je leur en parlais, je disais ouais, mais j'ai déjà 30 ans, je suis trop vieille pour commencer ou je sais pas quoi et tout, et Lorenzo m'a dit bah moi j'ai ton, il a plus ou moins mon âge, enfin tu t'en fous, vas-y quoi, c'est pas ça, peu importe. Et ensuite, il y a eu Arcachon. On est parti en vacances avec Arcachon, avec Moana et Léa, entre autres, et des amis de Moana. Et Moana a fait son sketch devant ses amis du chat et m'a forcé, très gentiment, parce qu'il faut pas forcer les gens.
C'était fortement suggéré.
Tu m'as fortement suggéré. Mais si, vas-y, écris un truc. Et moi, je sais pas et tout. Allez, mais vas-y, mais c'est pas grave, ça mène. Allez, bon, ok. Ouais, donc, je commence à écrire un truc. Moi, je vais pas le jouer. Non, on le joue pas, c'est pas grave. Mais si tu veux le jouer, tu peux le jouer, hein. Il y a pas. Ah, bah, Marine, tu voudrais pas le jouer. Et en fait, donc, dans sa douce suggestion, j'ai finalement lu mon premier texte de mon premier sketch. Et ça a fait rire ses potes. Et je me suis dit, ah, tiens donc. Et en fait, j'avais une scène, j'ai eu ma première scène 2 semaines avant la tienne, quelque chose comme ça, au Kings, pour un open mic aussi. Et pareil, c'était incroyable. C'est un sketch que je joue plus maintenant, mais je vais peut-être reprendre. Mais c'était incroyable.
Qui parlait de...
Qui parlait de... Du fait... Non, je sais pas, voilà, on avait dit que je me ferais cancel.
C'est le moment où tu vas être cancel, Marie.
Qui parlait du fait que quand j'avais 17 ans...
Je garde que ça.
Ah putain. Bon, bah j'en reparlerai de toute façon un jour. Faut bien assumer. Quand j'avais 17 ans, je voulais voter pour Sarkozy.
Oh voilà,
mais là
veux,
vous voyez pas la tête, vous voyez pas la tête de Régis. Et tu sais pourquoi j'ai arrêté de jouer? Tu sais pourquoi j'ai arrêté de le jouer? Parce que je le jouais, ça marchait hyper bien aussi, ouais, dans des scènes bien féministes. Parce qu'en fait, je m'auto-clashais, quoi, tu vois, parce que j'étais à quel moment? Et en fait, un jour, je l'ai joué. Je me rappellerai toujours. C'était ma première scène au What the Fun, à la Tricoterie. Silence de mort. Et je pense qu'il y avait un petit noyau de Français de droite là au milieu qui regardaient ça et qui ont pas du tout rigolé. Et en fait, je me suis dit bon ben tant pis. En fait, il marche pas ce sketch, c'est pas possible et tout. Et je pense que je vais peut-être le reprendre parce qu'en fait, ça fait partie du truc intéressant de dire que quand même j'étais une ado à 17 ans qui réfléchissait à voter pour Sarkozy à Versailles et qu'aujourd'hui je suis là où je suis quoi. Où clairement, je ne votais pas pour Sarkozy. Clairement.
Déjà, c'est pas possible, il va aller en prison bientôt.
Oui, mais tu sais très bien que ça ne les empêche de rien. Il va aller à la Maison Blanche, non pas du tout. Il va aller à l'Élysée avec un bracelet électronique, hein. Bref.
Et alors, c'est une chronique politique maintenant. Macron, démission.
Voilà.
Mais je suis curieux de voir le sketch parce que j'ai tendance à aimer quand les gens disent, ah, j'ai fait des trucs que je regrette ou que j'aurais fait différemment. Je trouve ça toujours intéressant. Du coup, je pense que c'est un angle intéressant et je pense qu'il faut le faire avant que les gens n'aient plus la référence de qui est Sarkozy.
C'est pas mal qu'on en reparle maintenant parce que j'étais en train de me dire j'aimerais bien retester des nouveaux trucs et en fait ce sketch je ne l'ai pas rejoué depuis le 15 décembre 2021. Donc, en fait, peut-être que je peux le rechecker. Parce qu'il avait des trucs qui étaient chouettes quand même.
Sors Sarkozy des miroirs, il en a besoin.
Allez.
Ça marche. Et comment ça s'est enchaîné après votre première scène? Est-ce que vous avez commencé à jouer directement de façon régulière ou c'était une fois par semaine, une fois par mois? Comment ça s'est enchaîné jusqu'à maintenant où là vous jouez de façon régulière presque 2-3 fois, 4 fois semaine, 5 fois, je ne sais pas.
Ouais.
Non. 2-3 fois semaine?
Ça dépend des semaines, mais quand j'ai le temps, c'est 3-4 fois, ouais.
Ok. Donc comment ça s'est passé? Comment s'est passée la suite après votre première scène?
Alors, j'ai tendance à dire qu'on a eu de la chance parce qu'on est arrivé juste avant que le stand-up à Bruxelles explose. En fait, si c'était un... Enfin, on est arrivé avant que ce soit tout bouché dans le tunnel, quoi. Je sais pas comment dire. Et donc, on est arrivé dans un moment où
Moi, je suis littéralement allée voir Rudy du What the Fun et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'ajouter au groupe Facebook? Et il m'a dit, écris-moi sur Facebook. Et après, il m'a ajouté, quoi. Qui n'arrive plus maintenant.
Il y a deux ans,
c'était,
quoi.
C'était il y a deux ans. Ce qui n'arrive plus maintenant, il faut que Rudy te repère et Rudy vient de parler et Rudy te dit, est-ce que tu veux venir sur le... Parce que, en fait, on est arrivé exactement avant qu'il y ait des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui se lancent dans le stand-up. Donc c'est quand même une chance. Enfin, ça commençait déjà à être un peu en ébullition. Et moi, la façon dont ça s'est passé, c'est que ça a explosé. Enfin, en tout cas, ça a très bien marché d'un coup. Et après, ça c'est devenu dur. Et moi, qui suis une bonne élève, pour qui à l'école tout a toujours été facile, c'est terrible. C'était terrible à vivre en fait. C'est-à-dire que, à ma cinquième scène, je me suis filmée, je l'ai envoyée au Festival de Liège, ils m'ont mis sur leur tremplin. Et donc ma huitième scène de toute ma vie, c'était le tremplin du Festival de Liège.
Les frères Taloche et tout.
Avec les frères Taloche que Dena a gagné. Donc évidemment, enfin c'était incomparable, moi, à ma huitième scène et Dena. Mais Dena, je me souviens toujours très bien, est venue me voir et m'a dit, c'est super ce que t'as fait pour une huitième scène, bravo, chapeau quoi. Et je le garde dans mon cœur et je suis trop contente. Mais c'était pas très bien ce que j'ai fait. Enfin, c'était une huitième scène de quelqu'un qui commence quoi. Donc
normal.
Donc c'était pas. Mais enfin, les gens ont repéré quelque chose, je crois, au tout début. Et puis après, j'ai postulé à un autre tremplin qui était le tremplin de Namur is a joke. Tremplin où on a toutes les deux postulé cette année-là j'ai eu. Et j'ai fait le... Toi, tu l'as eu après.
Tout à fait.
Et donc, j'ai fait ce tremplin et ça s'est pas bien passé. Et ça, c'était après.
C'est mieux passé que ce que tu crois.
Oui, mais pour moi, ça s'est pas bien... Je l'ai pas bien vécu, quoi, ce tremplin. Et en fait, j'ai vraiment eu ce truc de... ça monte et puis après, je me rends compte qu'en fait, il faut travailler. C'était facile au début et après je me rends compte que je savais que j'avais des petites facilités scéniques et comiques pour plein de raisons, j'ai fait de l'impro et voilà, mais qu'en fait il fallait vraiment énormément travailler pour y arriver et ça c'était pas naturel chez moi, mais c'était là parce que comme je dis à l'école j'ai jamais eu besoin de vraiment beaucoup travailler pour arriver à des choses, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à taffer quoi, et à taffer comme je pouvais parce que encore comme je peux parce qu'en fait je combine le stand-up avec un travail très prenant, donc je n'ai pas encore le temps qu'il faut pour travailler comme je voudrais, même si ça va venir et ça je suis trop contente, mais oui j'ai dû bosser. Je me suis rendu compte qu'en plus de ça le stand-up c'est un art où tu ne travailles qu'en faisant. Il faut juste faire. Et plus tu fais, et mieux ce sera. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, il y a eu des hauts, des bas. Et là, en ce moment, mais je dis ça, mais si ça se trouve, dans un mois, ce sera différent. J'ai l'impression que je commence à solidifier quelque chose qui me plaît. Mais je suis un bébé, hein. Enfin, 2 ans et demi de stand-up, c'est rien. C'est rien.
OK. Et toi, Marine?
Un peu pareil, en fait, comme on a commencé à peu près en même temps. D'autant plus, enfin, moi, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que moi, déjà, dit, en plus, il n'y a pas beaucoup de meufs, donc du coup, ça tombe bien. Pas parce qu'on est drôle, tu vois, juste ouais. Parce que, et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, ça m'a un peu, voilà. Et en fait, oui, un peu la même chose, des désillusions, ça a un peu fait comme ça, et ça fera comme ça, en fait, tout le long. Le temps qu'on continuera.
Ça a fait des vagues et des hauts et des bas, c'est ça qu'elle a mis avec sa main, mais c'est audio.
Oui, pardon, ça fait des vagues. Et, à peu près comme mot, il y a un truc où, faut bosser, quoi. Et après, moi, ça, c'est marrant, ça me coûte moins de bosser pour le stand-up en même temps. En fait, là, j'ai hâte, en effet, moi aussi, parce que je combine aussi un travail pour payer un loyer quand même, et le train de vie indécent que j'ai. Et en fait, je trouve que, par contre, ce que j'ai appris au bout de 2 ans et demi, c'est aussi à savoir dire non. Parce que mine de rien, là, par exemple, je me suis dit, en fait, en mars-avril, je prends plus aucune nouvelle scène. J'en fais que... D'habitude, je peux avoir jusqu'à une quinzaine, entre parfois les plus grosses, entre 15 et 20 scènes par mois, ce qui est énorme en vrai, et en moyenne je vais en avoir 12-15 à peu près, allez 12, avec des scènes plus ou moins grosses, des premières parties, des trucs, et c'est super parce que ça veut dire qu'on a l'opportunité de jouer si on le veut en tout cas. Et en fait là dernièrement je me suis dit, là j'ai failli faire un burn-out artistique aussi ces derniers mois, parce que entre le travail, la vie sociale aussi qu'il faut garder, la vie de couple, la santé mentale, la famille, tout ça, bah en fait 15 à 20 dates par mois plus un travail en 3/4 temps, c'est pas possible en fait, je vais exploser en vol. Et en plus du coup ça fait aussi que comme on Moi, Anna aussi a des chroniques sur BX1, mais moi aussi. Et du coup, avec les chroniques sur BX1, ça donne l'opportunité d'écrire plein de nouveaux trucs. Mais moi, c'est pas des choses que je vais utiliser dans mon spectacle. Donc, j'écris des nouvelles choses, mais je les utilise en chronique. Mais je travaille pas sur le spectacle à côté. Je travaille pas sur des nouvelles blagues. Je travaille pas à solidifier mes blagues déjà existantes. Je travaille pas à la structure et tout. Et en fait, je me suis dit, en mars-avril, j'avais déjà quelques dates ça et là. Donc, je crois que j'ai genre 8 dates sur les 2 mois. Et en fait, dès que j'ai une proposition, je dis non, du coup. C'est dur, parce qu'il y a des chouettes trucs, et qu'il y a plein de gens, il y a plein de plateaux avec des gens que j'adore et tout ça, et c'est difficile de... Mais je me suis dit, je préfère... En plus, je trouve que c'est presque un problème de riche, entre guillemets, de dire oui, ça veut dire que je peux dire non. Enfin, c'est super confortable, en tant qu'humoriste, de se dire qu'il y a des gens qui te proposent des scènes, c'est quand même trop cool. Mais je me suis dit, là, il faut que je... Ça va plus devenir un plaisir si... je rends pas les moments de stand-up et de travail de stand-up qualitatif, en fait.
Ouais.
Et sans la peur, par contre, parce que aussi, moi, je sais qu'il y a des phases aussi, par exemple, septembre, décembre, c'est les phases où je joue le plus et où j'ai pas de problème à faire, à doubler ou tripler des soirées et tout ça. Et il y a un truc très chouette. Mais ça, j'aime encore mieux quand j'ai du nouveau texte à tester, par exemple. Mais si t'as pas le temps d'écrire des nouveaux trucs que t'oses tester ou que, en fait, là, je me suis rendu compte, moi, je passe ma vie à écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il y a plein de trucs, du coup, là, j'ai genre 5 pages de 3 carnets que j'avais écrits à la main. Donc, j'ai genre, je sais pas combien de trucs. Et t'es là, genre... Bon, par où je commence? Et en fait, je sais pas, parce que les anciens sketchs, ils arrivaient de manière un peu naturelle. Et là, tu dis, je veux écrire du nouveau, je veux des nouveaux trucs. Est-ce que ça, c'est une chanson? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est un thème de sketch ou est-ce que ça, c'est juste une punch? Comment est-ce que... Et en fait, ça prend du temps et de l'énergie mentale. Et donc, moi, je suis un peu dans cette phase-là actuellement. Voilà. Mais c'est très chouette aussi.
Mais pour répondre à ta question, enfin, on a facilement et rapidement pu jouer, c'est une vraie chance, et en plus rapidement on a aussi eu fin de soirée, donc on avait des dates à nous, et puis là tout où on avait aussi des dates à nous en tant que MC ou en tant que et donc on a quand même pu avoir un truc régulier rapidement, facilement, et au point où on en est à se dire ok, comment on trie et comment on fait pour bien vivre ces scènes, parce qu'on a à côté des choses à faire aussi dans la vie.
Bah, tu l'as mentionné un petit peu, Marine, mais comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous avez une méthode de travail ou est-ce que c'est par phase? Ça change tout le temps?
Eh ben là, je suis en train d'écrire quelque chose que je vais tester ce soir en anglais. Okay. Un texte complètement nouveau. Je vais jouer sur une scène queer. Et donc, moi, la façon dont je fonctionne, mais que je suis en train de peaufiner, c'est que souvent, j'écris tout. J'écris tous les mots, j'essaye de...
Est-ce que t'as compris tous les mots aussi?
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci, oui. Céline. J'écris tout, et souvent j'essaye de surligner ce qui est censé être un peu le truc drôle, la punch et tout ça. Et puis après je le fais à l'oral, et quand je le fais à l'oral, je me rends compte que ce que j'ai écrit n'est pas forcément naturel dans la façon dont je vais le dire. Donc, je réécris un petit peu. Et puis après, je vais le faire sur scène. D'abord, je vais souvent le faire de manière très scolaire, de la manière dont je l'ai écrit. Et en le faisant, je vais me rendre compte, ok, y a ça marche moins bien et tout ça.
Okay.
Je m'enregistre. Et puis après, quand j'ai fait quelque chose... plusieurs fois. Enfin, après, je vais beaucoup faire ce texte avec, en changeant des petites choses. Et puis après, je vais travailler par phase sur les textes. C'est-à-dire qu'il y a un texte que je vais faire longtemps et puis je vais un peu me lasser de ce texte, mais je vais me dire comment est-ce que je peux le spice it up. Et donc, je vais réfléchir plus maintenant que j'arrive à bien le faire. Je le sais maintenant. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Quels sont les moments de mou maintenant que j'ai fait ce texte une vingtaine de fois? Qu'est-ce qui est mou là-dedans et qu'est-ce que je peux rendre plus chouette? Et là, je vais retester, en fait. Je fais comme des V1 et des V2, mais par vague, en fait. Je vais faire beaucoup de fois la même chose en me disant bien, ok, là, ça marche pas.
Vague 1, vague 2, vague 3,
etc. Okay. Par exemple, ce que t'as vu la dernière fois au réservoir, quand sur ton plateau, c'était la vague 2 du sketch de la danse contemporaine que je suis en train de travailler.
Ok. Et toi, Marine, est-ce que tu travailles de façon similaire ou...
Moi, je suis pas quelqu'un de très rigoureux, sauf si on parle comptabilité. Et là, alors là, laisse tomber, c'est vrai. Et tableau Excel. J'ai du mal à avoir une routine de travail très arrêtée. Donc ça va un peu dépendre. Là, je suis dans une phase où je me rends compte que j'ai peur de tester. Ça fait quelques mois, j'ai toujours énormément écrit Quand j'étais jeune, j'avais 15 000 carnets intimes, que j'ai encore d'ailleurs. J'ai toujours eu des journaux, des trucs d'écriture. Toujours. C'est pas toujours... je pense que 80% c'est acheté par la fenêtre. Mais voilà, j'ai toujours beaucoup écrit. Et en fait, ce qui était chouette au tout début, c'est qu'on a fait une formation à distance avec des Québécois, avec RHA Divertissement, qui n'existe plus aujourd'hui, je crois, mais qui nous a donné des méthodes de travail tous les mercredis. Donc c'est très rigoureux. Pendant 3 mois, on se voyait tous les mercredis. Et donc en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la régularité du travail qui était hyper chouette. Là, cette régularité-là, je ne l'ai que dans les chroniques, par exemple. Toutes les 2 semaines, je suis obligée d'avoir 3 minutes et demie de nouveau matériel que je finis toujours à 2h du matin la veille, mais soit. Pour les textes, comme j'ai pas d'obligation de créer du nouveau, là, je me sens, en fait, après mars-avril, je me suis dit, je vais me forcer à me mettre sur des scènes de test, justement. Parce qu'en fait, la première année, je me mettais sur des scènes de test et j'écrivais un truc 5 minutes, une heure avant la scène de test, et c'était trop fun et tout ça. Et là, je sens que je suis dans une phase où j'ai tellement fatigué, un peu claqué, que j'ai plus cette énergie-là, et j'ai très envie de la retrouver, cette énergie-là. Donc, ça va vraiment dépendre des phases de trucs. Et par contre, en revanche, quand il y a un texte que j'aime bien et que je sens qu'il fonctionne bien, j'aime beaucoup le refaire plein de fois, m'enregistrer, m'écouter, l'améliorer. Et ça, c'est très, très kiffant. Hyper important de s'écouter et de se regarder. C'est insupportable, c'est horrible, mais il faut le faire. Ça, pour moi, c'est le truc qui fait le petit truc en plus, quoi.
Ouais, bien sûr. Horrible moment.
Terrible.
Surtout quand t'écoutes un bide.
Oh.
Si vous aviez un point à améliorer en particulier dans votre stand-up,
oui.
Ce serait quoi ?
Oh, il y en a tellement. Moi, je crois que ce que j'aimerais améliorer, c'est encore ma spontanéité, mon lâcher-prise sur scène, qui arrive quand je suis dans des moments de fatigue totale. Là, je n'en ai rien à faire et c'est souvent mes meilleures scènes. Mais bon, je vais pas m'épuiser juste pour être drôle sur scène, c'est pas une bonne méthode. Ça, et quand même abandonner du texte quand il fonctionne pas. C'est dur, c'est hyper dur, parce que t'es là genre, mais quand je l'écris, j'adorais ce truc là oui, mais en fait les gens te suivent pas, donc si tu l'as fait 12-15 fois et que les gens n'ont pas ri, soit tu le gardes parce que c'est très important pour soutenir autre chose, mais tu sais pourquoi tu le gardes, soit il faut dire au revoir à ce texte et trouver une autre manière. Et il y a un livre qui s'appelle The Comic Toolbox. Et ils disent souvent qu'il faut faire 10 fois la version d'un truc pour peut-être trouver un truc drôle. Et en fait, je crois que ça, et ça, j'ai très hâte d'avoir du temps pour faire ça, c'est de tester 1000 façons de faire la même blague et de pas m'accrocher à mon texte, de tester ça. Il y a une scène dans The Wonderful Mrs. Maisel, qui est une série sur le stand-up, où à un moment, c'est très clairement montré ce truc où elle teste 14 fois, elle a une même idée, mais elle le teste plein de fois différentes. Et ça, j'ai envie de pouvoir le faire. Et d'abandonner du texte pour tester d'autres choses.
Et toi, Marine, si tu voudrais améliorer ?
Moi, j'aimerais bien. Il y a un truc que j'admire pas mal chez Moana, c'est qu'elle n'excuse pas qui elle est sur scène. Je trouve que tu as un personnage qui est très. Qui est toi. C'est toujours bizarre de parler de personnage en stand-up parce que c'est vraiment un mélange de qui tu es et en même temps, la frontière est très très fine. Mais moi, j'aimerais bien réussir à assumer encore plus la singularité de mon personnage et être un peu moins people pleaser, justement. Mm-hmm. Là, je suis en train de travailler sur le fait que. Je plairai pas à tout le monde, mais je peux me constituer mon pool de spectateurs et spectatrices qui m'aimeront bien moi et assumer complètement qui je suis et qu'est-ce qui me fait rire. Il y a pas longtemps, pareil, je me suis dit, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai fait une chronique qui était un peu moins punchée que les autres, mais j'ai eu plein de retours hyper positifs parce que c'était un truc que j'avais envie de raconter. Et c'était quand même drôle, mais c'était plus philosophique un petit peu. Et en fait, je me suis dit, c'était une chronique où je me rappelle le matin même, j'avais dit à une de mes potes, j'ai pas envie de m'excuser de ce que je veux faire, ce dont j'ai envie de faire. Et donc j'aimerais bien assumer encore plus sur scène ce que j'ai envie de faire vis-à-vis de moi. Parce que j'ai encore, c'est con, je pense encore au regard de mes parents parfois sur mes sketchs. Je pense encore au regard de mes amis, je pense au regard des autres humoristes. Il y a tous ces regards-là en fait qui ont beaucoup trop encore d'impact sur ce que j'ai envie d'écrire, ce dont j'ai envie de parler. Et donc ça, j'aimerais bien faire ce travail de me détacher de tout ça pour embrasser ma singularité. Voilà.
Ouais, bah je te le souhaite d'y arriver.
Merci.
À fond. Et qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le fait de faire du stand-up ?
Ce que j'aime le plus, c'est la sensation de joie et de diffuser de la joie. Quand ça se passe vraiment très bien, j'ai l'impression d'être comme un espèce de joyau qui reflète plein de lumière sur les gens. Je dis pas que je suis un bijou, mais je dis juste genre c'est comme si j'étais dans mon plexus solaire, j'avais une pierre qui fou qui diffuse de la lumière et de la joie aux gens. Et cette sensation là d'être vecteur de joie pour toute une salle qui rigole avec moi de trucs trop chouettes et où je sens qu'elle est en train de passer un excellent moment. Ça, c'est ce que je préfère au monde. Ce que j'aime le moins, c'est les montagnes russes. J'aime pas du tout le fait que un jour, c'est génial. Et même une fois, j'ai fait ça, j'ai fait le même texte à deux scènes différentes. C'était exactement le même texte. La première scène, froid, je me suis dit, j'arrête le stand-up en sortant de scène. J'ai vraiment dit, c'était horrible ce moment. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Il y avait des rires, mais c'était pas un bide, mais c'était froid. Je fais le même texte, je clôture une soirée stand-up et c'est un triomphe. Enfin, c'était génial, quoi. Ouais. Triomphe. Les gens sont venus me voir, m'ont dit, on viendra voir ton spectacle et tout ça. Ce roller coaster-là.
Ouais, c'est assez fou.
C'est dur parce que des fois, en plus, c'est sur des. Tu as l'impression que tu as. Plus tu le fais du stand-up, plus tu dis je maîtrise tous les éléments qui vont faire que ça va bien se passer. Et en fait, il y a tellement d'inconnus sur pourquoi ça va bien se passer et pourquoi ça va pas bien se passer que c'est dur, quoi. Ça, c'est dur.
Et toi, Marine, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins ?
Je vais commencer par ce que j'aime le moins, comme ça je finis par le positif. Hein. Okay. Je suis assez d'accord sur le roller coaster. Moi, je lirais ça au doute, en fait. Après, est-ce que c'est la vie ? Je sais pas. Mais en fait, le doute, j'aime pas cette expression, mais je vais l'utiliser parce que faute de mieux. Je dois me faire violence pour me rappeler tous les jours que c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie et que j'ai vraiment envie d'en vivre et que c'est possible et que en fait j'ai déjà fait pleurer de rire des gens donc il y a pas de raison que je le refasse pas. Et en fait tu dois vraiment te faire la méthode c'est méthode Coé. Mais j'ai pas envie Coué. De citer ce connard.
Mais non, c'est ah oui, Coué. Voilà. Coué, c'est un connard. Coué, c'est un mec de développement personnel.
Ah, c'était le jeu de mots
sur
émission de merde, là. Oui. C'est la méthode Coué.
Peut-être que c'était un connard, mais...
C'est possible.
Non, c'est pas.
Statistiquement, c'est possible. Mais... Pardon.
Forcément, il écrit, c'est un homme qui fait développement personnel.
Excusez-moi. Mais de se le répéter, en fait, et c'est dur parfois de juste... et aussi il y a eu une période mais ça je m'en suis vachement détachée et ça j'en suis plutôt contente d'avoir l'impression que c'est important de se faire valider par les autres humoristes et surtout par ceux qui sont plus connus. Ouais. Spoiler alerte, non, on s'en fout et c'est tant mieux s'il y a des gens qui te soutiennent et tout ça, c'est trop bien, mais en fait c'est pas ça le plus important. Mais il y a eu un moment au tout début où j'étais hyper attachée à ça, quoi. Mais ça m'est vraiment sorti au fur et à mesure que je trouvais mon truc et tout. Ça, j'en suis vraiment sortie. Mais il y a un peu ce côté, tu vois, genre la fame aussi et tout, dans laquelle que moi je connais, j'avais déjà touché du doigt quand je travaillais en tant que chargée de prod et qui me plaît pas des masses. Soit. Et ce que je préfère, c'est la sensation de communion quand et non pas la communion catholique.
Mais Dieu n'est jamais loin avec Marine Sergent. Dieu n'est jamais loin. Tu préfères la communion. C'est étonnant.
Que c'est marrant ce mot. Quand on prend le corps du Christ. Non, pardon. De quoi tu parles ?
Tu ne parles pas du tout
de stand-up. Et qu'on se met à genoux pour prier. Quand on commence le Notre Père. Enfin, ça, c'est incroyable.
Bon, c'est génial.
Venez voir mon spectacle. Non, ce que je préfère, la communion avec les, du coup, avec le public, en fait. Où, en gros, le rire, c'est quand même l'un des aspects le plus important du rire, c'est le fait que c'est pas contrôlable. Et le fait d'arriver à déclencher quelque chose d'aussi joyeux, d'incontrôlable chez plein de gens. Mais quel bonheur, quoi. Et en fait, c'est marrant parce que je parle parfois à des gens qui disent, mais moi, je pourrais jamais, c'est l'enfer sur Terre. Alors que je crois que c'est l'un des endroits où je me sens le mieux. En tout cas, quand ça se passe bien.
Ça se passe bien.
Quand ça se passe bien, c'est démesuré. Quoi. Et donc cette communion avec plein d'inconnus, je trouve ça fou, quoi.
Ok, je comprends. Moi, je me rends compte que je vais sûrement pas le laisser, mais je vais le dire. Ça me fait rire. C'est j'ai été chez ma psy et elle me dit mais vous montez sur scène, vous vous mettez en danger. Et je dis c'est le moment où ça va bien. L'avant scène et l'après scène, plus dur.
Ouais.
Beaucoup plus dur d'être au même endroit mais sans la scène.
Mais laisse-le, hein, coupe pas ça, c'est hyper intéressant.
Ah ben je voilà. Sais pas, je réfléchirai avec moi-même.
Très bien.
Je demanderai à ma psy. Hey,
c'est vrai.
Je laisse dans le podcast ou pas ? Et elle me dira faites ce que vous voulez.
Enfin, pourquoi vous demandez votre
annulation ? Non, elle te dira pourquoi vous voulez ne pas le mettre dans le podcast. Elle te posera des questions. Tu
sais,
voilà, pourquoi vous demandez si vous allez le mettre dans le podcast ou pas. Mais on a la même.
Mais je pense avoir fait le tour un peu de ce que vous avez fait. J'aurais voulu aller plus dans les détails, mais on est aussi pris par le temps. Donc, je vous souhaite une longue carrière.
On ne fait pas le name dropping.
On va faire le name dropping.
Ah, pardon. Bien, merci.
Parce que,
Régis.
Comme il est dans tous les épisodes, je veux clôturer avec le name dropping. Je vais juste vous demander de dire les premiers trucs qui vous passent par la tête.
Ouais.
De ne pas réfléchir. Donc, peut-être que ce ne sera pas l'humoriste que vous vouliez citer, mais ce sera en tout cas celui qui vient en tête à ce moment-là.
Ça va.
Mais
très
voilà.
Bien.
Donc, on va passer au name dropping. Je vais vous demander de donner un humoriste, une humoriste pour chaque catégorie, que la personne soit québécoise, française, allemande, juste une personne pour chaque catégorie.
Ça va.
L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que vous avez rencontré.
Verino.
Verino, ok.
Inno JP.
l'humoriste qui vous a inspiré ou vous inspire actuellement le plus.
Anna Gatsby.
Anna Gatsby.
Je pensais qu'on le dirait en même temps.
On peut le dire en même temps. 3, 2, 1. Anna Gatsby.
L'humoriste qui, pour vous, écrit le mieux.
Marina Rollman.
Lisa Delmoitié.
Oh, waouh. Ses
chroniques sont hallucinantes.
Lisa Delmoitié. Et en plus, elle en fait une par jour. Quoi.
Elle est incroyable.
C'est bien écrit.
C'est ouf.
Les angles qu'elle fait et tout, c'est
une génie.
Incroyable.
Bravo, Lisa. L'humoriste qui, selon vous, joue le mieux. La personne qui vend le mieux ses blagues par son jeu.
Dena.
Comment il s'appelle le Québécois, là, dont on a vu ?
Pierre-Yves Roy-Desmarais.
Pierre-Yves Roy-Desmarais.
Ok.
Aussi, très fort.
Et un humoriste qui vous a surpris, une humoriste qui vous a surpris dernièrement, quelqu'un que soit que vous connaissiez pas du tout et qui vous a mis une claque, ou alors quelqu'un que vous connaissiez, mais qui s'est revenu avec quelque chose de ouf, ou qui a progressé énormément, ça vous a surpris, vraiment ?
Plutôt dans quelqu'un qui vient de commencer, Alba. Elle est hyper surprenante et j'aime beaucoup j'aime beaucoup son univers. Hein. Je trouve ça très fort ce qu'elle fait.
Ben on va aussi faire sur quelqu'un qui débute, mais pas tant que ça maintenant, mais quand même Alice Connard.
Oui.
Ouais.
Elle est très très forte. C'est une excellente improvisatrice et sur scène en tant que stand-upeuse, elle est très très drôle.
Et maintenant, on passe à la dernière partie qui est un peu plus compliquée parce que vous n'avez pas beaucoup de temps de réflexion et je suis désolé. Je vous demande de choisir entre deux humoristes. Vous devez me dire la personne qui vous fait le plus rire entre les deux personnes. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'a pas de talent.
C'est
ça veut
horrible.
Juste dire qu'elle vous fait rire à 1% de moins que l'autre.
Il y a Lola dedans, mais je te casse la gueule.
Il y a Lola dedans, bien
oh,
sûr.
Oh putain, j'ai dit putain.
Alors, premier choix entre Taylor Tomlinson et Sarah Silverman.
Taylor Tomlinson.
Ok. Entre Michelle Wolf et Daniel Sloss.
Daniel Sloss.
Parce c'est pas mis en scène, hein. Je précise qu'on répond en même temps, mais que...
Le choix suivant est particulier dans le choix des gens, mais j'aime beaucoup que vous deviez choisir entre les trois. Entre Anna Gatsby,
oui.
Lola Destienne
oh.
et Jérôme Commandeur, qui est la personne qui fait le plus rire Moana, apparemment.
Ah oui, c'est vrai.
C'est dégueulasse.
Ah, j'aurais dû dire Jérôme Commandeur qui m'a surpris parce que j'ai vu un de ses sketchs qui était incroyable.
C'est dégueulasse de faire ça.
Mais pour moi, je pense qu'elle va comprendre si on dit ça.
Tu crois ?
Oui, elle va comprendre.
Jérôme Commandeur.
Elle va comprendre.
Un, deux, trois.
Anna Gatsby.
Je pense quand même, Lola, si tu nous écoutes, que tu peux reconnaître que Anna Gatsby est un peu plus loin dans son procès.
Mais on t'aime. Mais en plus, toi, t'aurais choisi. Toi, tu nous aurais jeté par la fenêtre dans un.
Mais évidemment, elle nous aurait. Petit ange, parti trop tôt. Juste toute petite aparté. Jérôme Commandeur, sa carte blanche dans LOL qui ressort.
Incroyable.
Une pépite de chaque milliseconde de ce qu'il fait est exactement ce qui me fait rire. Voilà, regardez ça, c'est incroyable.
Entre Marina Rollman et Virginie Fortin.
Oh, trop dur. Oh, ah, c'est dur ça.
Merci Lola pour
si,
le choix.
Si, Marina Rollman.
Tu peux dire Virginie Fortin, comme ça il y en a un.
Bah, en fait, les chroniques de Marina Rollman me font vraiment beaucoup rire. Son spectacle est vraiment bien, mais le spectacle de Virginie Fortin, j'ai
une claque.
Pleuré de rire.
Oui, oui.
J'ai pas pleuré de rire au spectacle de Marina Rollman, j'ai beaucoup ri. Mais, ok, Virginie Fortin.
Ok. Moi, je dirais Virginie Fortin, mais j'ai eu l'occasion de voir ces deux spectacles en live. Incroyable.
Ouais. Incroyable.
Mais on l'a vu au Kings et à un
on
moment,
pleurait.
Ah oui. À la fin, je dis à Moana, mais viens, on va aller lui dire bonjour. Elle me dit, mais ce serait comme rencontrer Dieu. J'étais à t'exagérer un tout petit peu. Ah, donc, et Dieu, jamais loin pour Moana aussi.
Fact.
Je vais juste lui envoyer cet extrait.
Oui, s'il vous plaît. Fun fact, j'ai joué avec sa sœur au Mondial d'improvisation.
Oui.
Avec Corinne Fortin. Voilà.
Choix suivant, entre Pierre-Yves Roy-Desmarais
oh.
et Panayotis Pascaux.
Pierre-Yves Roy-Desmarais.
Pierre-Yves Roy-Desmarais, ouais.
Entre Anthony Circus et Florent Lausson.
Moi, je sais.
Florent Lausson. Sorry, Anthony, mais on t'aime beaucoup.
Florent Lausson, j'ai aussi pleuré de rire en l'écoutant.
Moi aussi.
Entre Lisa Delmoitié et Fanny Ruet.
Lisa Delmoitié.
Et dernier choix. Entre Lou Trotignon
oh.
et Dena.
Oh l'enfer, c'est impossible.
C'est trop dur ça.
Impossible.
C'est
pas moi
trop
comme... Attends.
Dur.
Non, Moana, tu sais pourquoi pour moi c'est pas trop dur? Parce que Dena c'est pas ma meilleure amie, d'accord? Donc je peux dire
Dena ne l'écoute pas.
Lou Trotignon, même si ça se joue à un poil de cul.
Ah, oh, c'est mais pour moi c'est trop dur. C'est trop dur.
Content, ça veut dire que j'ai bien choisi.
Oh, c'est impossible.
J'aime tellement Lou. Lou est un génie. Hein, de
non, après, j'adore Dena aussi.
C'est
mais...
incroyable ce que fait Lou, mais qui me fait pleurer de rire, Dena.
Moi,
Dena,
Lou qui...
Dena Lou. Une mimique et je suis au sol. Quoi.
Après, elles sont meilleures amies hein, aussi, donc il faut...
Ouais.
Il y a de la jalousie.
Ouais, mais Lou Trotignon, allez voir ce que fait Lou. Lou, c'est vraiment une personne incroyable.
Lou, c'est... The humoriste, j'ai deux parents très versaillais, d'accord, et voilà, et très traditionnels. Lou parle de transidentité de manière incroyable,
oui.
Et j'encouragerais mes parents à aller voir le spectacle de Lou Trotignon, alors que je sais que mes parents connaissent pas grand-chose à la transidentité et sont veulent comprendre mes voilà, et c'est le spectacle que je conseillerais pour pouvoir en parler.
Drôle.
Quoi.
C'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est drôle.
Essaye pas de dire c'est drôle alors que tu t'as choisi Dena. Mais Dena, c'est aussi que je l'adore, donc c'est pareil. Dena, c'est hyper dur. En vrai, c'est hyper dur.
Mais Dena est déjà dans un ancien épisode du podcast et Lou, je lui ai demandé de faire le podcast, il a accepté. Donc
trop
j'ai
bien.
Hâte d'enregistrer.
Bien.
Ça va être un chouette épisode.
Il est
grâce
hilarant.
À votre gala que j'ai
ah
pu
oui,
aller voir.
Rencontré.
C'est là que je l'ai rencontré, je voulais en voir encore un petit peu plus parce que j'aime voir ce que font les artistes avant de les recevoir dans le podcast.
Oui,
c'est pour
discuté
ça que je suis allé voir
à
aussi
la fin,
votre spectacle, fin de soirée. Parce que j'aime voir les choses pour pouvoir en parler en ayant connaissance de cause. Et aussi pour recommander les spectacles en disant hey, « Hé, ce spectacle-là, je l'ai vu, il est bien. »
Ok.
Tu veux dire que t'aimes bien parler de choses que tu connais ?
J'essaie.
C'est rare.
Bah, c'est, écoute, félicitations.
Ça marche. Et la dernière question que je pose à chaque épisode, donc je suis obligé de la poser à celle-ci également. Quel est l'humoriste que vous voulez entendre dans le prochain épisode ?
Bah, alors, Lou, d'office. Dani, ça peut être vraiment cool de l'avoir.
Mao Drama aussi.
Ok.
Peut-être.
Camille Giry, sinon, que j'ai pas vu, mais elle passe au Kings le 4 avril. Okay. C'est Camille de Camille et Justine. Je sais pas si tu connais le duo YouTube.
Justine Loza.
Loza.
Ouais, je vois bien le duo. Ouais.
Et
j'ai une amie que vous connaissez qui s'appelle Blandine, qui m'envoie souvent des vidéos de ce duo.
Moana connaît pas Blandine. Moi, j'ai habité avec Blandine, donc okay. Je la connais bien. Mais oui, oui.
Voilà.
Et ben.
Dédicace à Blandine aussi.
Ben Camille Giry fait un spectacle qui s'appelle Moyenne, que j'ai très envie de voir. Et je pense que ça peut être très bien parce qu'elle est très féministe et très chouette.
Anna Godefroy.
Qui joue sur mon plateau ce soir.
Eh ben voilà, Léopold Demarchand.
Oui, lui qui est un auditeur du podcast.
Et ben voilà.
Que malheureusement, je ne peux pas voir le jour où il joue son spectacle parce que je joue le même soir.
Je te raconterai.
Mais
je pensais à Swann Périssé aussi.
Ah ouais, de ouf, Swann Périssé.
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Désolé d'avoir dû accélérer un petit peu à la fin. J'espère que l'épisode vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment.
Oui, c'était super.
Merci beaucoup, Régis.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.